quand on voit des carrières aujourd'hui de DJ, c'est autant du lifestyle que de la musique.
Ouais,
ça,
clairement,
c'est
ouais.
contre ça qu'on luttait. C'est-à-dire de dire, nous, on vient vivre une expérience sonore, une expérience auditive. On vient pas voir quelqu'un. On vient écouter de la musique. On a été suivis par les RG pendant longtemps.
Ils vous kiffaient, ils vous écoutaient.
Ils nous ont écoutés. Non, quand on est allé les interviewer, ils nous ont sorti des dossiers sur nous. C'était incroyable. Les excès, le fait de l'ambition démesurée, le fait de vouloir toujours aller plus loin, plus, toujours plus, toujours plus. Trop de techno, trop de d'alcool, trop de tout. Et c'est les excès qui ont mené à nous mettre en danger.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous, je suis avec Daz, évidemment. Ça va Daz?
Ça va, et toi Salman?
Écoute, ça va très très bien. Nouvel épisode,
oui.
Évidemment.
C'est le combien?
Et c'est probablement le 117.
117, hein, ouais. 117 comme
si on le modifie.
Furtif, bien sûr, le F-117, hein, tout à fait. Et justement, on va parler furtivité, on va parler...
Tu veux nous mettre un tunnel avion dans ce...
C'est dans l'air du temps, écoute.
Christophe, est-ce que tu connais les avions? Le 117, ça te parle et
le
tout?
Le F-117 quand même.
Ouais, c'est 117.
Non. Aussi, ça peut aussi. Marcher, ça peut marcher. Non, mais justement, on va parler furtivité, on va parler gens qui s'infiltrent.
C'est vrai. Christophe, il s'est beaucoup infiltré dans sa vie.
Justice des territoires.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour s'enjailler.
Daz, on est avec Christophe Samé. Samé, comment il faut le dire d'ailleurs?
Samé. Samé. S-A-M-E, hein. Samé Verdun de Croix.
Christophe, il faut dire que t'as une vie de fou. T'as une vie vraiment, un parcours professionnel assez incroyable. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, Daz.
Ouais.
Ouais, parce que...
C'est dans l'air du temps, en plus, si j'ai cru comprendre.
Oui, c'est vrai qu'il y a de l'actualité, en plus, avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. Christophe, d'ailleurs, je pourrais dire alias Rocket, Rocket 77, ton pseudonyme au sein d'un collectif, puisque au début des années 90, t'es adolescent, Christophe, tu commences à t'intéresser à un phénomène naissant, qui est les raves. Tu deviens DJ, tu vas produire de la musique aussi, et en 1996, je crois... Tu rejoins un collectif qui s'appelle Heretic System.
En 1996, Heretic System se crée.
Ouais.
Ça devient des amis et je les rejoins officiellement. Je suis intronisé en 99 à une occasion bien précise qui était la Technoparade de 1999 pour laquelle j'ai été recruté, bien que je les fréquentais déjà beaucoup.
Okay. Ce que vous allez faire avec donc ce Sound System. On rappellera ce que c'est, donc collectif, Sound System, à la fois vous faites des événements, vous sortez des disques aussi en tant que label, etc. Bon, je peux citer d'ailleurs quelques grands copains de la clique hérétique, Popoff, Noise Builder, KRS, Noot, Léo, Buns, il y en a plein d'autres, Rocket aussi, toi. Vous êtes souvent dans l'illégalité, vous organisez des rave parties, des free parties surtout, où là, il n'y a pas d'autorisation.
Mais je peux intervenir sur ce point, on est dans l'illégalité relative, puisqu'on est hors cadre, on n'est pas vraiment dans l'illégalité.
C'est pas interdit officiellement, il y a un flou juridique.
Voilà. Les premières années, c'est de l'ordre du barbecue entre amis qui dérape.
Ah ouais, ça dérape, ça drift.
Et ce qui est génial, c'est que bah, vous allez marquer en fait l'histoire des musiques électroniques en France, l'histoire des free parties, l'histoire des événements musicaux tout court, du spectacle, parce qu'il va y avoir quelques gros, des hauts faits d'armes, si je puis dire. Évidemment, la gare de Fred de Bercy, la piscine Molitor. Plus tard, alors là, c'est vraiment en mode free party. Plus tard, il va y avoir des soirées plus organisées au Zénith, à l'Olympia. Et puis voilà, Hérétique va devenir culte. D'ailleurs, ça t'amène à rencontrer plein de gens, à jouer avec des gens. Lenny D, Jeff Mills, Manuel Malin, évidemment. Bon, ça, c'est presque la famille, j'imagine, Manuel Malin.
Complètement, ouais.
Ouais. Et d'ailleurs, Christophe, ça va au-delà de la France parce que vous allez participer à la première rave party de l'histoire du Liban.
Je reste un peu plus de 4 ans au Liban.
À quelle période, du coup?
Avant 2005. Avant, il y a une guerre qui se déclenche en 2005, ouais. Qui est l'arrêt de ma villégiature, on va dire, libanaise.
Donc c'est à cause de ça que t'es rentré? S'il n'y avait pas eu le conflit, tu serais resté, en fait?
Complètement. Ouais, je me plaisais beaucoup au Liban. J'avais trouvé un échappatoire à ma carrière de DJ, justement. Je suis tombé amoureux d'une Libanaise pendant le festival qui était organisé par les personnes qui nous ont invités. Et je suis resté avec elle, je suis retourné au Liban, j'ai vécu au Liban et j'ai travaillé avec son père qui avait un atelier de fabrication de meubles sur mesure pour des palaces et des maisons gigantesques du Moyen-Orient. Donc des gens venaient du Qatar, d'Arabie Saoudite pour acheter des meubles sur mesure copies d'antiquité. Et mon patron, qui était mon beau-père, adorait mon nom de famille. Il disait, nous avons Monsieur Samé Verdun de Croix qui nous vient de France. J'ai jamais rien fait, je savais rien faire. Il disait, mets une blouse, prends des feuilles d'or, fais comme si tu savais faire de la dorée. Et des Saoudiens qui arrivaient en tenue, il leur disait, regardez, il nous vient de France, Monsieur Verdun de Croix.
Et ben, c'est très libanais ça dans l'esprit.
C'est hyper intéressant que tu parles de cette expérience parce qu'en vrai, elle va être, ça va être un moment important pour la suite de ta carrière. Parce que, donc tu vas voyager, tu vas de plus en plus t'intéresser au décor. Alors tu parles de ces histoires de meubles, etc. Ça va devenir une vraie passion. Vous fondez avec la clique hérétique une boîte, In-Off, qui au début est faite pour faire plein de choses, mais petit à petit va vraiment se spécialiser dans le côté scéno, décor, etc. Tu vas prendre vraiment en main d'ailleurs ce projet. Et bah, ça va t'amener à travailler avec des marques, Netflix, Christian Dior, pour des événements, des expos au Grand Palais, des choses comme ça. Et puis pour le monde de la fête, là d'où tu viens à la base, parce que t'as bossé sur des énormes événements type Tomorrowland par exemple, ce qui est assez réputé, et surtout pour les énormes clubs d'Ibiza, Ushuaïa, le High, le très récent Universe qui a ouvert, je sais pas, il y a un peu plus d'un an, un truc comme ça.
En mai dernier.
Ah ouais, même pas, c'est vraiment...
Universe que j'ai fait entièrement, c'est-à-dire dont je suis l'architecte d'intérieur, le designer du club.
Parce que pour l'Ushuaïa, pour le High, ça va être organiser des soirées. D'ailleurs, et puis tu vas rencontrer des artistes comme ça, tu vas organiser des soirées pour eux aussi en termes de scéno, de décor. Et c'est vraiment effectivement Universe, là on te donne carte blanche, on dit tu fais ce que tu veux, avec ce club qui est peut-être aujourd'hui le club le plus gros club du monde.
Le plus gros, le plus prestigieux en termes de d'investissement, on va dire.
Ouais, avec des résidences d'Eric Prydz, d'Anima, de David Guetta, de Karl Cox, enfin de, voilà, des énormes stars, quoi. C'est vraiment une grosse machine. Ça a dû être passionnant de bosser là-dessus, on en parlera. Et franchement, là, tu te rends compte, des débuts underground là, avec Hérétique,
ouais, c'est...
jusqu'au mastodonte.
En passant par la feuille d'or, là, la trajectoire est super intéressante.
Bah, c'est, bah oui, ça va, en fait, ça va, ce qui est génial avec ton parcours, c'est qu'on s'intéresse toujours au parcours des gens, mais on aime parler de musique de manière générale. Et en fait, il y a plein de transformations à travers ton parcours qu'on peut observer sur la société de manière générale, le rapport à la fête, la musique, parce que Hérétique, c'était aussi produire de la musique. On va en parler, on va écouter des morceaux, etc. Puis on parlera des bizarres aussi.
On a entendu des morceaux, là.
Oui, en préparant l'émission.
Le grand écart facial de Jean-Claude Van Damme avec d'autres trucs. Hein. Et mais juste ouais. un point, en fait, en tant que néophyte complet sur la scène, notamment les soirées à Ibiza et tout, machin, ouais. Ça continue ça. Moi, je pensais que c'était éteint, en fait.
Ça continue fort.
Okay.
Il y a énormément de gros clubs à Ibiza. Ça reste un espèce de salon international de la techno.
Ouais.
Tout type d'électro confondu, et tu peux trouver tout ce que tu veux à Ibiza encore aujourd'hui, même si ça s'embourgeoise beaucoup et qu'il y a de moins en moins la partie underground qui est représentée, ça reste quand même...
Ouais, moi je l'ai resté là-dessus, en fait ça avait un peu perdu de son âme.
Ça a changé,
ouais.
Mais ça n'a pas perdu le côté gros stuff organisé.
Okay.
Il y a toujours un tourisme de l'électro à Ibiza hyper, hyper fort.
Ok.
Ce qu'on va faire, c'est peut-être revenir à... Pas quasiment au début, tu commences à t'intéresser à la teuf. Tu te rappelles quand est-ce que tu entends parler pour la première fois de Hérétique ? C'est quel contexte ?
Je me rappelle très bien quand j'entends parler pour la première fois de Hérétique. Je suis au lycée professionnel, en secrétariat. Je fais un BEP secrétariat.
On est en quelle année à peu près, t'as une idée ?
On est en 96. Ouais. Ouais, c'est ça, ça vient de se créer. Hérétique vient de se créer. Et il y a un mec dans mon école qui fait du dessin publicitaire. C'est un lycée professionnel du 19e arrondissement. Et qui s'appelle Sam, à qui je rends hommage fortement, mon binôme du début, et qui me dit, il faut que je te présente à des copains, ils vont te plaire, tu vas voir, c'est génial. Et lui, Sam, c'est Noise Builder. Noise Builder, c'est quelqu'un qui a été assez iconique dans le groupe, qui est un peu en retrait aujourd'hui, mais qui avait vraiment eu une carrière de musicien très pointu et très apprécié parmi nous. Et je me souviens très bien, on était dans le marché secrétant, en face du lycée, et il m'a dit, il faut que je te présente ces mecs-là. Et il a commencé par me présenter un des membres, puis deux, puis trois, puis ça a matché et je me suis retrouvé à leur soirée, mais en tant que copain. Pas tout de suite en tant que musicien.
Et tu vas faire la teuf avec eux si je dis pas de bêtises, la première vraiment fête Hérétique, c'est dans le Val-de-Marne en 96.
Ouais, là je suis pas encore là. J'ai pas participé aux 3-4 premières teufs, mais oui, très rapidement je vais faire la teuf avec eux. Je vais déjà à pas mal de teufs. J'allais déjà à des teufs, là j'étais majeur à cette époque quand je les ai rencontrés, mais je me suis acheté mes premières platines pour mixer des vinyles de techno qu'on allait chercher chez Techno Import, rue des Thaïlandais à Bastille, unique magasin de vinyle électro parisien.
Ah, il n'y en avait pas d'autres à ce moment-là.
Il n'y en avait pas d'autres. Pour ce type de musique, art tech, hardcore, tribe, musique très, très, très méconnue à l'époque, il y avait une scène club avec Laurent Garnier. Il y avait une scène club, mais la scène underground, elle était vraiment hyper petite, hyper limitée. On venait d'avoir l'arrivée des Spiral Tribe, donc des Anglais qui s'étaient fait chasser d'Angleterre par une loi qui interdisait toutes les soirées en Angleterre, qui était arrivée en France et qui avait commencé à organiser des soirées à Paris, en région parisienne et d'ailleurs ailleurs en France. Et c'est ça qui nous a intéressé, nous, le côté très marginal et très underground de l'histoire.
Parce que on a tout de suite conscience qu'il y a le côté fête, mais enfin, tu vois, c'est une manière de faire la fête, c'est presque un mode de vie, en fait.
Complètement. Moi,
ça t'a parlé tout de suite, ce mode de vie ?
C'est la marginalité qui m'a intéressé. Moi, j'étais punk. J'écoutais les Berruriers Noirs, j'étais très, très rebelle, adolescence compliquée, réfractaire à tous mes parents, ma famille, vraiment...
Ça crée des petits problèmes ?
Ça m'a créé des petits problèmes. Ça crée des problèmes à ma famille. Mais j'étais content. Mais ça, c'est directement dérivé du mode de vie punk. Je les voyais dans leur camion, ils habitaient dans leur camion, ils avaient leurs gamins dans leur camion, ça me plaisait. Ce côté nomade en dehors de la société plaisait beaucoup, beaucoup. Arrivé à ma première teuf, j'ai fait le mur, j'ai attendu que ma mère aille se coucher, je vivais avec ma mère seule. Je suis sorti, tac, tac, discretos, on allait à un rendez-vous à Porte-Maillot, c'était le rendez-vous, on avait un flyer, j'avais 15 ans, hein, 14 ans, 15 ans, je sais pas... Et à Porte-Maillot, là, il y a des voitures, des gens, on dit oui, ça va être là-bas, faut appeler une infoline, on comprend pas trop ce qui se passe. À un moment, je sais pas comment, on monte dans une voiture qui va nous emmener à la teuf, qui sait où c'est. J'arrive dans la teuf, là, je suis tout jeune, j'ai en tête que je dois rentrer avant que ma mère se réveille. Et là, je me sens téléporté dans un univers sans jugement, personne ne me demande rien, des papiers, une attitude. Hein. J'ai trouvé ça hyper agréable, très familial. J'ai trouvé beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens qui s'intéressent à, justement, étant très jeune, est-ce que je suis drogué, est-ce que je ne suis pas drogué, qu'est-ce que j'ai pris, attention. Étant donné que la prise de drogue est assumée, elle est mieux encadrée, j'ai envie de dire. Et j'ai mordu à cet hameçon. Et ça s'est transformé, hein. J'ai fait le mur presque toutes les semaines suite à ça. Ma mère comprenait pas pourquoi je me couchais à 9h et je me réveillais à 15h. Elle a compris après. Il y a un moment, elle a compris.
Est-ce que tu te rappelles à ce moment-là, quand tu commences à découvrir cet univers et puis Hérétique, il y a un morceau par exemple qui ressort, un morceau de musique, tu vois, vraiment, c'est cette époque-là, tu vois, il incarne cette époque. On pourrait peut-être s'écouter un extrait pour voir un peu à quoi ça ressemble aussi, tu vois.
Ouais, il y a un morceau. Faut que je te retrouve le nom d'un morceau. Ah!
Vas-y, on peut prendre quelques secondes si tu veux. Si tu veux regarder sur ton téléphone, ouais.
Faut que je fasse le coup de fil à un ami.
Allez, vas-y!
Ouais, Damien. J'ai fait cutter le podcast juste parce que je me souviens pas d'un track, un des tracks qu'on a mis dans le blind test de l'émission de radio l'autre jour. Un track iconique du début de la teuf, au tout début. Sulfurex.
Je pense qu'il doit pas en avoir 10 000.
Je te remercie, Damien. C'était mon coup de fil à un ami en plein pendant l'émission. Bisous.
Merci, Damien.
Ciao. Il est mort de rire.
Génial. Ben on s'écoute ça, Sulfurex.
Allez, Sulfurex.
Point Break, on est en 1994. C'est le son de la fête, quoi.
C'est joué dans toutes les frites, toutes les teufs, ce morceau. À chaque fois qu'il est joué, tout le monde hurle. C'est la folie. Très, très iconique. Oh.
Ouais, quand ça repart, ça va rendre fou. Hein. Incroyable, c'est bien. Ouais.
Sur quoi, petite question à parté, là, sur, ils utilisaient quoi les prods là, pour faire ces sons-là? C'était quoi comme soft, comme machine?
Un gros côté acide.
C'était tout en hardware déjà, il n'y avait pas d'ordinateur. Okay. Donc on était vraiment que sur de l'analogique.
Ouais.
Et c'était 303, ouais. Okay. 909, on est sur ces machines-là. Le sampler là, le Akai
le S1000 là.
Non, d'avant.
1200.
Ouais, 1200.
Ouais, okay.
Voilà, ce genre de.
Et des filtres dans tous les sens.
Des
là,
filtres dans tous les sens.
Ça, on le sent, là. Ouais. Ça s'éclate avec les potards. Ouais.
Mais d'ailleurs, on parlera de l'aspect aussi production musicale. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est juste se replonger un peu dans cette histoire de sound system. Parce que c'est hyper important, le sound system. Parce que Heretic System est un sound system, on dit, donc c'est à la fois collectif, à la fois aussi, c'est le système son en fait, le sound system. C'est une culture qui naît en Jamaïque. Ça, c'est un truc dont vous parliez entre vous, un peu l'histoire du sound system, c'était...
Pas tellement. Pour nous, l'histoire du sound system, ça se limitait au Spiral Tribe. Ouais. On n'a jamais évoqué la Jamaïque ou...
Le ça... raga, le dancehall, tout ça.
Non, on a toujours été proche de ce type de... Culturellement, il y a, ouais. Y a ouais. quelque chose de proche, même beaucoup avec le rap aussi.
Ouais.
Et notamment le rap très underground a toujours été proche de la free party. Ouais. Beaucoup de free parteux écoutent du rap et beaucoup de gens du rap, mais le côté Kaira du rap vont traîner en free party.
Ouais.
Pas du tout le côté glamour du rap parce que c'est la guerre techno-rap. Ouais. Mais bizarrement, il y a une porosité et des passerelles dans le côté deep, dark. Et assez violent presque, j'ai envie de dire. Dans cette forme de hip-hop qui va se mélanger à la techno très bien.
En fait, toutes ces sous-cultures, elles ont émergé aussi justement avec des soirées sauvages, des sound systems. On parle du punk ou ouais, du raga, du hip-hop.
Et en fait, parce qu'il y a cette influence jamaïcaine, c'est-à-dire que, en gros, le sound system naît vraiment en Jamaïque. D'ailleurs, le DJing naît en Jamaïque, le MCing, le fait de rapper, ça naît aussi en Jamaïque. Bon, on l'a déjà évoqué, ça. Enfin, c'est un pays incroyable pour la musique.
Complètement. J'ai découvert ça super tard. Quand je suis allé dans mon premier sound system de raga, reggae, mais ils sont comme nous, en fait. Ils sont juste pas de la même couleur, mais c'est pareil, quoi. Et j'ai halluciné, j'ai vraiment pris une claque. J'ai vu que c'était hyper proche de notre délire.
Parce qu'en fait, c'est l'inspiration directe, puisque la Jamaïque, ancienne colonie britannique, évidemment, une diaspora jamaïcaine qui est en Angleterre, au Royaume-Uni, et qui, notamment, avec une vague dans les années 60-70, et ramène notamment beaucoup de musique, ska, reggae évidemment, et puis la culture du sound system. Et puis ça va donner la culture skinhead aussi, par exemple. Et en fait, c'est cette culture du sound system qui va être aussi digérée par l'Angleterre, avec les musiques électroniques naissantes, acid house, évidemment tout ce qui est jungle, tout ce qui est breaké, etc. Enfin, il y a plusieurs teams comme ça, mais d'une certaine manière, Spiral Tribe, donc qui va marquer, il faut que tu nous en parles un peu, c'est presque les héritiers de toute cette histoire, en fait, sound system.
Je ne sais pas s'il y a un lien ou un héritage ou une filiation entre les deux, mais il y a des similitudes très fortes dans le fait d'être rejeté. Et de devoir survivre dans le rejet. Et du coup, de prendre le côté de l'ombre plutôt que de la lumière. Ça, clairement, il y a des similitudes. Je ne dirais pas que les Spiral Tribes soient des descendants, dans une forme de filiation, des sound systems jamaïcains. Par contre, on peut faire une analogie entre la répression contre les uns et contre les autres qui donne lieu au besoin de se retrouver et de faire ce qu'on aime faire illégalement. Alors qu'au départ, on n'était pas parti pour le faire illégalement.
Mais c'est quoi ce rejet, en fait, c'est lié à quoi? C'est qu'est-ce qui est illégal? Enfin, qu'est-ce qui est potentiellement répréhensible?
Sujet hyper d'actualité en ce moment, avec la nouvelle loi sur les free parties. Ouais. C'est une grande question que je me pose. Nous,
parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est la circulation de la drogue, ou des drogues, ou...
C'est faux. La circulation de la drogue, c'est la même dans un festival légal que dans un festival illégal. On peut même dire, et c'est une réalité, qu'il y a beaucoup plus de prévention en free party du fait que c'est assumé. C'est pas caché. On a des maraudes de Médecins Sans Frontières. On a une association qui s'appelle Techno Plus qui vient faire des stands de prévention liés à la consommation de drogue. On a beaucoup plus ce sujet pris en main en free party que dans un festival légal. Donc la drogue, c'est pas un vrai sujet. On a été suivi par les RG pendant longtemps.
Les renseignements généraux.
Enfin, les renseignements généraux, tout à fait.
Ça s'appelle comment aujourd'hui, pardon,
les renseignements territoriaux ou DGSI?
C'est la DGSI, les espions. Ouais. Okay. Ouais. Donc ils vous kiffaient, ils vous écoutaient.
Ils nous ont écoutés. Alors, quand on est allé les interviewer, ils nous ont sorti des dossiers sur nous. C'était incroyable. Ils avaient le nom de mon ex-femme, de la mère de mes gosses, de tout le monde, tout le monde. Ils savaient mieux que moi les disques que j'avais sortis, combien ils m'avaient rapporté, toutes nos économies parallèles.
Tu dis interviewé parce que vous avez discuté avec eux, c'est ça, ouais. Ensuite, pour un documentaire notamment.
Pour un documentaire, exactement. Le Réal est allé les voir. Il est revenu. Déjà, il est déjà le responsable, le directeur des renseignements généraux en charge des free parties à l'époque où nous étions très actifs, qui donc nous a suivis de très près tous, a bien voulu le recevoir, a eu l'aval de sa hiérarchie pour nous parler librement de ce qu'il avait fait sur nous, la manière dont il nous avait étudiés. Et là où c'est très intéressant, c'est que lui-même explique qu'ils ont tout de suite compris qu'il n'y avait pas vraiment de danger avec la drogue. Eux, ils cherchaient à savoir si on représentait un danger pour l'ordre public. Okay. La consommation de stupéfiants, pour eux, c'était anecdotique. Et comme il dit très bien dans le documentaire, le RG, c'est... Faut pas non plus la minorer, il y en a. C'est une réalité, mais c'était pas un point d'alerte pour nous.
Pas une histoire de santé publique ou tout ça, quoi.
Non, c'était pas vrai.
C'était vraiment potentiellement un endroit où on se regroupe et on peut fomenter, de renverser.
Voilà, et quand ils ont vu que c'était pas le cas, ils ont arrêté de nous suivre.
Alors en fait, ils veulent juste faire de la musique.
C'est, à un moment, ils ont fait c'est une bande de jeunes, foutez-leur la paix. Ça coûte cher de les suivre, on arrête de mettre du budget là-dessus. Ils vont rien faire d'autre qu'organiser des soirées, donc ça ne nous intéresse pas. Et du coup, qu'est-ce qui les intéresse, à part le fait qu'on paye pas d'impôts, qu'on paye pas de taxes? En discutant là récemment, très récemment, la semaine dernière, avec un des acteurs d'aujourd'hui de la Free Party, un des représentants de la Free Party actuelle, qui est jeune donc, et par rapport à, enfin, je veux dire, comme moi, ça fait 25 ans que j'ai pas organisé de Free. Je suis invité à titre honorifique, presque comme un vieux dinosaure qui vient donner son avis sur ce qui s'est passé à l'époque, mais c'était une autre époque. J'ai perdu le film.
Il disait sur les raisons tu vois de la répression.
Ouais, ils comprennent pas les raisons de la répression hormis le fait qu'il faille payer des taxes. Ouais. Après moi j'invoque le sujet de la sécurité par exemple. Mais c'est vrai que quand ils sont sur un terrain privé qu'il y a 500 personnes qui enfin la sécurité finalement
500 ouais.
Parfois plus.
Oui, on en parle selon la police.
Oui. Donc selon les cas de figure, la sécurité peut être invoquée, l'insécurité des participants.
C'est ce que. Ouais, mais enfin ça c'est enfin dans des festivals un peu massifs, il y a des mouvements de foule. Y a
ouais,
des
mais
comme
en
ça.
Fait, comme il y a des lois officielles, enfin une organisation obligatoire, tu dois montrer avoir tel truc, telle sécurité. Enfin c'est hyper encadré, et ils ont peur en fait quand ça ne l'est pas quoi en gros. Mais peut-être qu'on pourra en reparler parce que cette répression, ce qui est intéressant, c'est que avant même de la connaître en France. Elle va donner aussi la scène française, puisque tu parlais de Spiral Tribe. En fait, en Angleterre, tu as ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça doit te parler, Christophe, c'est le Second Summer of Love. Je sais pas si tu vois.
Ouais.
En gros, les étés 88-89, le premier Summer of Love, c'est les hippies à San Francisco dans les années 60, en gros. Où c'est la première fois où ça popularise un peu ce mouvement, et il y a une espèce de. Un truc qui se passe, 67, je crois.
Ok.
Et on parle parfois de Second Summer of Love, c'est les étés 88-89, où en fait, les jeunes découvrent notamment l'acid house, la drogue qui va avec aussi, le LSD, etc., l'acide. Et c'est quand même un moment où c'est un peu dur, l'Angleterre. Toutes ces années avec Thatcher, fermeture des mines, c'est hyper dur pour les classes populaires. Il y a un truc qui se passe difficile socialement en Angleterre. Et on raconte que justement, les free parties, les raves aussi, elles naissent de ce contexte-là, de ces jeunes qui ont besoin d'une forme d'échappatoire. Ça va pas, en fait, en Angleterre.
Ouais, complètement. Complètement. Et aux États-Unis, pareil. Ça naît aux États-Unis, d'ailleurs, à Détroit, à l'origine. Ça naît dans des hangars abandonnés.
Pour la techno, notamment.
La techno, la house, la warehouse music, naît à Détroit, dans les entrepôts. Ensuite, c'est repris en Allemagne. Il y a un petit move allemand avec Kraftwerk et toute cette époque. Mais la base de la base, c'est Détroit, ville sinistrée par désindustrialisation, chômage massif et les communautés noires américaines. Qui passe du blues à la techno en se rendant compte que ça sonne bien dans un entrepôt, ça fait bouger la tête, mais je caricature à peine, hein, c'est quasiment ça, c'est le mec il avait sa guitare et puis d'un coup il a mis une machine, un synthé, ça a mis un kick, ouah pas mal, pas besoin de faire de balance, tu balances un kick, tout est bon dans un entrepôt, le son de l'entrepôt en lui-même, la réverb de l'entrepôt reprend le truc, t'as un joyeux bordel, finalement facile, pratique, accessible. Et on y va. Et les Anglais, c'est à la suite de ça. Donc c'est, ça a été dès l'origine une musique qui est née
de la crise, quoi.
De la crise.
C'est intéressant. D'ailleurs, je vous renvoie. On a fait des trucs sur Monte-le-Son. François, notamment, qui monte cette émission, c'est un sujet qu'il aime beaucoup. Il a parlé du Second Summer of Love. Et d'ailleurs, il y a un lien avec Ibiza. C'est rigolo parce que déjà, dans le Second Summer of Love, l'Acid House passe par Ibiza. Des DJ anglais passent à Ibiza, découvrent cette musique. Enfin, il y a vraiment, tu vois, une passerelle. C'est un lieu aussi où cette musique se développe en plus de l'Angleterre, par exemple. Ce qui est intéressant, on parle de répression. C'est hérétique quand même, j'imagine que ça a été un modèle pour vous, Spiral Tribe. Pourquoi ? Parce que c'est un sound system qui en Angleterre, sauf que Thatcher, au bout d'un moment, elle dit on interdit tout. C'est quoi exactement ? Il y avait un truc précisément qu'ils ont interdit, c'était les rassemblements.
Les rassemblements autour de musique répétitive.
c'est radical. C'est vraiment spécifique, quoi.
Musique répétitive.
D'accord.
Voilà, donc c'est...
Comment on définit ça ? C'est vraiment, c'est sur 4 mesures, 12
8, ouais, c'est sur 4 mesures. D'ailleurs, ils ont fait naître la drum and bass de ça pour...
Pour essayer d'exploiter le...
Ouais, en gros, en Angleterre, t'es plus de 10 personnes autour de ce qu'ils considèrent comme de la musique répétitive, t'es interdit, là où c'est clair.
Et radicalement, c'est-à-dire pas comme chez nous. En France, on a été interdit pendant longtemps, il y a eu une loi qui est passée, nous on était encore en train de faire des free parties, elle n'a pas été appliquée tout de suite, on s'est pas fait taper dessus beaucoup finalement. Alors qu'en Angleterre, ça a été radical. La répression a été forte, vite.
Mais pour les mêmes raisons que chez nous, quand on évoquait les RG, c'est-à-dire la crainte potentielle de préparer un mauvais coup.
Je sais pas pourquoi Thatcher a été si dur.
Ouais, t'es dur avec tout le monde déjà, Thatcher.
Ouais. Mais...
je sais pas, j'ai aucune idée de pourquoi.
Parce que est-ce que c'est vraiment pour des raisons politiques ou pour des raisons genre culturelles, tu sais, genre c'est pas de la musique.
Non, si, il y avait, je pense quand même qu'il y avait une forme de mépris quand même vis-à-vis de ces cultures.
Ouais, voilà, c'est ça.
Après, nous, on connaît bien les Spiral eux-mêmes, les individus. S'il y a bien des gens qui veulent pas nuire, c'est eux. Donc après, je sais pas ce qu'ils avaient eux comme info, quelle peur ils ont eu, que ça prenne toute la population, que les gens se mettent à faire une révolution. Mais enfin, on parle quand même de gens qui dansent devant des enceintes avec des t-shirts jaunes avec un smiley dessus. Hein. On parle de ça. Et les Spiral, c'est des gens qui sont vachement, c'est des artistes hyper engagés dans l'art. Ils ont des concepts forts. Ils ont des concepts sur la musique, sur le trip musical, la trance, c'est des gens vraiment avec une grande qualité artistique, avant tout. C'est avant tout des artistes. Et ils ont tous fait des carrières artistiques. Ensuite, par la suite, ils sont venus faire des teufs en France. Ils ont créé leur mode de vie nomade, donc à vivre dans leur camion, à se déplacer, à monter des sons un petit peu partout en Europe à chaque fois. Nous, on les suivait, on allait dans leur sillon. Et certains des Spiral Tribe sont devenus les organisateurs des Technival français. Et on ne parle pas de Sarkoval ou de Technival Lego, on parle de Technival avec 1000 personnes maximum, 4-5 sons, que des travelers. C'est-à-dire, des travelers, c'est vraiment des nomades qui vivent dans leur camion, qui se retrouvent de toute l'Europe et qui suivent comme ça la vibe des Spiral Tribe. Et l'idée, c'est de se retrouver ensemble autour d'un feu de camp et de faire une transe sur un set. Et le set n'est pas du tout personnifié, il n'y a pas de DJ, personne n'est annoncé, on annonce un lieu, on y va, on ne sait pas qui va jouer. Après, je ne te dis pas que ce n'était pas la guerre à 2h du mat pour aller prendre les platines, mais il y avait quand même de l'ego, il ne faut pas non plus trop idéaliser le truc. Mais,
parce que là, ça faisait vraiment un délire de communauté.
C'est exactement ça.
Post-hippie, en fait.
C'est un délire de communauté. Alors, je ne connais pas assez bien les communautés hippies, mais... En tout cas, il y a quelque chose de très familial et de très conceptuel dans la manière d'appréhender une transe tous ensemble. On se retrouve ensemble autour d'un set, d'un DJ ou d'un live, et on apprécie tous ensemble ce moment. Et là où ça a commencé à vriller dans des sarcos, des autorisations, c'est quand il y a eu trop de monde.
Ouais. On reparlera de ça, parce que c'est effectivement, il y a eu plein d'évolutions. Enfin, la scène a été marquée, il y a eu des passages qui ont été importants. Sur Spiral Tribe, si je dis pas de bêtises, c'est les premiers en France à organiser une rave party, une free party, pardon.
Free party, ouais.
En 93.
Donc juste la différence entre les raves et les free, c'est que la free est pas officielle auprès des autorités. Il y a pas de
attention à la sémantique. Free, c'est libre.
Ouais.
Parce qu'il y en a beaucoup qui gratuit, confondent avec gratuit. Ouais. C'est important.
Ouais.
Donc oui, l'idée c'est de faire une fête libre, sans contrainte, sans billetterie, sans rien, donc sur donation.
Sans déclaration au préalable auprès des autorités.
Sans autorisation, du coup. Voilà. Okay.
Sans autorisation et sans interdiction. On a vraiment très fréquemment eu les flics qui sont venus, on leur a payé le café et ça s'est très bien passé.
Ah, ok. D'accord.
Salut les jeunes, vous partez quand ? Attention, vous nettoyez bien. Et voilà, fin
de l'histoire. Ouais, c'est d'accord.
Très fréquent.
Ouais.
Les premières années, ça se passait comme ça tout le temps. La problématique qu'on a eue, c'est le monde, l'affluence, le succès.
Qui transforme un coin une pâture quelque part dans un petit bled en truc avec des centaines de voitures partout et évidemment avec un afflux de population, bah effectivement le potentiel de dégradation qu'ils vont avec en termes de déchets, ce genre de trucs quoi.
Alors ça, je dirais que les organisateurs de Free sont plutôt des gens dans la bienveillance à l'égard du lieu qu'ils sont en train de d'exploiter.
Ouais, vas-y.
Ouais, c'est plutôt la faune qui venait n'était plus instruite à la Free, et donc on se retrouvait avec des violences, des agressions et des choses qui, hors cadre d'un encadrement avec une sécu ou avec des choses comme ça, devenaient problématiques. Et la Free Party n'était pas habituée à mettre en place ce type de dispositif. Avoir un service de sécurité dans une Free, c'était antinomique à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Aujourd'hui, ils ont des teams bienveillance, maraudes de sécurité, ils ont des gilets avec des... J'ai appris ça, là. Ils sont super organisés maintenant par rapport à nous. Mais c'est vraiment l'affluence qui a créé tout ça. Si on était resté sur des choses confinées, très petites, quand t'as 500 personnes, tu connais tout le monde.
Ouais, bien sûr.
Et puis tout le monde passe la même teuf. Quand t'as 500 personnes, il y a peut-être 3-4 qui sont sur le parking, 3-4 là, mais en gros, on voit tous le même set. On est tous au même endroit, à la fin on se connaît tous presque comme dans un gros mariage quoi. Puis finalement tu vas par affinité, tu sais que lui il a l'air dangereux, il est vite pris en charge. Tout le monde se sent responsable du truc quand on n'est pas nombreux. Après quand tu te retrouves à 1000, 2000, 3000 et puis nous carrément 15 000 personnes. Alors là,
15 000
personnes, t'as des mecs qui se font racketter au coin du parking, t'as des voitures forcées, et puis 15 000 personnes, ah y a pas de sécu, ah ouais c'est libre, c'est free, et ben vas-y on y va, on descend avec toute l'équipe et c'est parti, on va s'amuser. Et là, on a commencé à avoir des agressions sexuelles, des agressions tout court. Et c'est là où nous, on a pris le tournant légaliste. À ce moment-là, on s'est dit, si on ramène 5000 personnes à chaque fois, on ne peut plus tenir le truc sans règles.
Il faut dire que votre histoire, elle est émaillée. Alors, il y a les moments de gloire, les moments géniaux, de partage, de musique, etc. Il y a des moments plus difficiles aussi. Bon, on l'a dit, la drogue est très présente. Il y a eu des morts, ça a été compliqué. À la fois, il peut y avoir des trucs avec le public et tout, mais même dans l'équipe, quoi. Il y a eu des trucs, des moments difficiles avec Hérétique. C'est assez bien retracé dans le documentaire dont on parlait tout à l'heure. Je l'ai pas cité, c'est We Had a Dream de 2010 de Damien Raclot d'Oliac. Ça vaut le coup d'aller voir ça. Peut-être pour parler un peu concret. Tu sais, toi, quand tu rejoins Hérétique, qu'est-ce que tu fais? Comment c'est organiser des soirées? C'est faire le DJ? C'est comment ça se passe? C'est très concrètement, vous vous réunissez dans un endroit, vous dites ouais, vas-y, on va faire ça. Qu'est-ce qui se passe?
Je vais te raconter le jour où j'ai intégré Hérétique. J'étais en train de faire un track uniquement composé de raw et de paix. Et je faisais
la finesse,
ça.
Quoi.
Ouais, je faisais ça, mais dans un délire vraiment. Pour rigoler, on avait découvert les samples, on avait découvert qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, j'ai réussi à faire un kick avec un raw, j'ai réussi à faire un snare avec un... Enfin tu vois, vraiment tout était fait comme ça. Un des hérétiques est passé chez moi et m'a dit c'était un génie, c'est génial. Ça faut qu'on
parce
le
presse. Parce qu'il était sobre quand il a dit ça.
Complètement sobre. On a pressé le disque, Hein, le morceau s'appelle Flatulence, j'ai honte, mais alors à tout jamais de ce truc. C'est vraiment un truc...
Alors attention parce que là t'as honte, mais...
Je regarde si je peux le trouver. Est-ce qu'il est sur Internet?
Il est sur YouTube. Tu vas pas mettre ça quand même.
Oh, non, okay, je te mets pas. Okay.
Un morceau de gros hardcore avec un gros kick et voilà. Et là, les mecs ont dit bon, bah, ok, bah, du coup, vu que de toute façon, t'es un bon pote, t'as qu'à intégrer le groupe, hop, on te trouve un nom. Moi, j'avais un petit appartement 77 rue de la Roquette dans le 11e arrondissement qui était légendaire parce que je l'ai eu très jeune, parce que je suis parti de chez moi très jeune. Et donc, tout le monde squattait mon petit appartement depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'est né Roquette 77. On a cherché un nom pour presser le disque. C'était très pressé. Viens, de toute façon, il nous manque un track. C'est une compile. Il y a deux vinyles. Et on va mettre ça à face B. Nanana, nanana. Flatulence, Roquette 77. Carrière lancée. C'est parti. 15 ans de DJing et de live suite à ça. Et c'est comme ça que j'ai été intégré au groupe.
Ah ouais,
sur un coup de tête d'un des membres.
C'est-à-dire que vous aviez un réseau pour presser, etc. Que c'était professionnel quand même.
Ouais, c'était assez professionnel. Enfin, c'était indépendant et Mais on était quand même obligé de payer des factures. On avait une association déjà. On a eu très tôt une association avec pour but la promotion des musiques électroniques. Et on était quand même assez vite organisé dans un commerce avec la livraison de tous les disquaires indépendants de toutes les grandes villes de France et d'Europe. Ouais, ça a été assez vite organisé, notamment autour de la musique. Et tout ça pour revenir à ta question, ce qui m'a lié au groupe Hérétique, à part cette blague des paix et des héros bien, c'est la musique. Ouais. C'est la musique, j'adore la techno. J'ai toujours adoré la techno, j'ai fait de la techno non-stop, tout le temps, et j'ai fini par presser des disques, faire un live, tourner, et je me suis éclaté à faire ça. Et c'est ça qui leur a plu dans notre groupe de potes. Il y avait plein de fonctions différentes, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on était un peu les porte-voix du truc. Donc moi, j'étais assez vite mis en avant.
Dans les collectifs, dans les sound systems, produire de la musique et produire des événements, c'est du 50-50, c'est tout aussi important, ça va ensemble.
Ouais, ça va ensemble. Alors, le sound system, c'est dépersonnifié, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de nom. On fait une soirée Hérétique, on ne sait pas qui joue quand. On n'affiche pas le line-up. Nous, on se l'affiche avant, histoire de que ce soit pas trop chaotique, mais...
Le public sait pas, quoi.
Le public sait pas. Si tu vois une soirée Hérétique, tu sauras pas qui joue quand. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, tout le monde s'est professionnalisé. Il y en a qui ont fait carrière dans la musique. Il y a des artistes professionnels.
C'était quoi ? C'était une volonté de pas trop s'exposer ou de pas créer de culte autour d'un membre plutôt que...
C'est ça. Ouais. C'est la volonté de pas créer de culte. Okay. C'est exactement ça. La volonté assumée, qui est très présente encore aujourd'hui en free party, de ne pas...
Et on est là pour la musique, quoi.
On est là pour la musique, okay. Pas pour l'ego de quelqu'un. Ouais. Tu vois, quand on voit des carrières aujourd'hui de DJ, c'est autant du lifestyle que de la musique.
Ouais, clairement,
ça,
oui.
C'est contre ça qu'on luttait. C'est-à-dire de dire, nous, on vient vivre une expérience sonore, une expérience auditive. On vient pas voir quelqu'un. On vient écouter de la musique.
Et du coup, alors, je sais pas combien d'artistes se succédaient à la platine, aux platines, mais les sets étaient préparé avant, où il y avait quand même une grosse part d'improvisation en fonction de comment la foule réagissait, c'était quoi le...
Maintenant, je travaille beaucoup dans le monde de la techno avec des grandes stars mondiales et je vois, j'ai un bon point de comparaison.
Ouais.
La manière dont ils bossent eux aujourd'hui, tous les time codes qu'on reçoit pour savoir quand la pyro va partir, quand la lumière, tout est prévu vraiment millimétré, ultra carré. Nous, c'était le contraire. diamétralement opposé, littéralement l'inverse de ça, le plus d'impro possible.
C'est-à-dire la pyro à votre époque à vous, ça s'appelait un incendie quoi.
Nous on a fait beaucoup de pyro dans les free parties, mais c'est sûr que le mec il doit se démerder pour écouter et il fait ça quand il veut. Après on fonctionnait pas vraiment, tu vois, en techno t'as le drop, donc tu coupes la basse, tu fais monter ça, ça pète. En free c'est beaucoup plus linéaire, c'est beaucoup plus de la trance.
Ouais, ok.
Alors, c'est pas de la musique trance. Quand je dis c'est de la trance, l'idée c'est de rentrer dans une forme de trance. Donc, c'était pas les mêmes codes musicaux non plus. Mais ouais, d'ailleurs, quand on faisait les switches de DJ, il fallait surtout pas que ça s'entende. Le mec, tu regardais bien le dernier disque qu'il était en train de mettre, tu fais putain, il met quoi comme disque ? Oh le bâtard, il a mis ça, comment je vais enchaîner ? et il fallait surtout que, hop, c'est à moi, que personne ne se rende compte que ça a changé de DJ. Et c'était important qu'on ne s'en rende pas compte.
Ouais.
Le mec, si on voyait qu'il changeait, il avait raté. C'était une erreur.
Ah ouais, il fallait vraiment partir en catimini. Ah ouais.
Il fallait que ça coupe jamais. Puis petit à petit, année après année, on a commencé à couper, à applaudir chacun. Et puis ça, aujourd'hui, maintenant...
Non, c'est un DJ set classique.
On écoute un de tes morceaux, ça te dit ?
Ok.
Alors, pas flatulence, on a petit... bien compris.
Non, mais j'avais mis Wario, de côté.
C'est intéressant. Wario, c'est... J'ai mis directement un jack au cul de ma Game Boy, la première Game Boy, la Game Boy 1. J'avais un jeu.
La grise, la grosse, là.
Ouais, qui s'appelait Wario. J'ai mis le mini jack dedans, j'ai samplé le truc et j'ai retourné le sample dans tous les sens et j'ai fait ce morceau avec ça.
Bon, on va s'écouter ça. on entend que le kick, c'est quelque chose, c'est hyper important dans cette musique. Comment y avait une vraie réflexion autour du matos à amener en teuf, les enceintes, tu vois, le, comment on va reproduire. Déjà, vous passez que du vinyle ?
On passe du vinyle et du live.
Ah oui, vous jouez aussi.
Mmh. On joue beaucoup en live.
Ah ouais.
Beaucoup en live en teuf.
Vous ramenez des machines, du hardware, des synthés, des trucs comme ça ?
Plein de hardware, plein de synthés, ordinateurs.
Ok. Et ensuite, pour retransmettre ce son, il y a une vraie réflexion, vous êtes des geeks du matos, genre, attends, il y a telle enceinte qui est trop bien, ou je sais pas quoi.
Complètement, on a toute une partie de l'équipe qui sont là-dedans. Il y a les artistes, c'est une organisation, c'est similaire à une organisation professionnelle, sauf que c'est tous des amateurs qui s'occupent de ça. Mais oui, il y a une vraie réflexion, ouais. Carrément.
Et comment vous le trouvez, ce matos ? Vous investissez ?
Alors nous, on a investi dans un sound system. On a fait construire aussi des caissons. Il y a toute une esthétique. Il y a plusieurs époques. Là, je vais parler de la free party et de l'époque du début de Hérétique.
Ouais.
Il y a une esthétique du mur de son. Un beau mur de son avec des beaux caissons en bois, bien positionnés, si possible, avec un paysage derrière, ou vraiment, c'est hyper important. On aime bien la photo du beau mur de son. On a fait des teufs où c'était plus important d'avoir un beau mur de son que de la déco. On disait, là, on a ça, y a lui nous prête ça, lui nous prête ça, on voit comment on dispose les caissons pour que ce soit harmonieux, pour que ce soit beau. Donc ça, très très important, le mur de son en free, c'est le symbole de cette musique, c'est ça, c'est le mur de son.
C'est marrant d'ailleurs, du coup, de faire un effort sur l'esthétique, alors que tout le reste, clairement, c'est un peu en freestyle, mais de, là-dessus, d'être très très picky, très...
Ouais, c'est, tu sais, c'est une esthétique un peu punk, un mélange entre punk et tribal.
Ouais, genre Mad Max en fait.
C'est complètement Mad Max, ouais. Ça c'est complètement Mad Max. Et le sound system, les enceintes, si on peut voir le boomer, tu vois, il faut que ce soit vraiment clair. On est là, et là, ça va péter, il va y avoir un gros son.
Puis ce qu'on voit aussi, on le voit pas mal dans le docu, c'est que l'idée c'est d'offrir une expérience de liberté aux gens qui viennent. Mais les organisateurs, ils sont pas toujours dans la liberté. Enfin, vous, par contre, vous mettez des contraintes, vous faites gaffe. Enfin, vous êtes des organisateurs, pro quoi. Alors avec à votre façon, mais n'empêche que c'est, vous faites ça sérieusement.
Ouais, complètement. On se détend que très tard dans la soirée. Mais il vient toujours un moment dans les premières années pour les free qu'on organisait, on était tout autant utilisateurs de la free que organisateurs.
Ouais.
Plus les années ont passé. Moins on a été utilisateur, plus on a été organisateur. Donc on a scindé les artistes. Il y a même, on a arrêté de faire porter des caissons aux artistes pour les ménager, pour qu'ils préparent leur set. Les rôles se sont un peu plus dispatchés. Lui s'est professionnalisé dans tel secteur. Lui, il va s'occuper de la scène. Lui va s'occuper de la déco. Moi, je me suis très rapidement occupé de la déco. J'étais dans l'équipe déco assez rapidement. Et même en tant qu'artiste musicien, j'ai joué jusqu'à assez tard dans nos teufs. Là, j'ai intégré l'équipe déco, j'ai adoré faire de la déco, j'ai adoré essayer d'upgrader justement l'esthétique que je trouvais dark, trash, et de la rendre plus glamour, plus joviale.
Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que toute cette activité, toute cette professionnalisation, en plus au fur et à mesure du temps, évidemment, où vous avez appris, etc., c'est que ça se fait quasiment sans fric. En tout cas, c'est pas à but lucratif, c'est-à-dire qu'il y a de quoi financer la teuf, et voilà, c'est tout.
Ouais, mais il y a du budget, mais c'est de la mise en commun d'efforts, donc d'énergie commune. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui sont pas que les membres du groupe, les gens qu'on arrive à fédérer, d'autres sound systems. On va tous se filer des coups de main et on met tous en commun l'argent qu'on arrive à faire rentrer d'une manière ou d'une autre. Beaucoup en vendant des disques et des cassettes à l'époque, qui était notre principale entrée d'argent. Et puis après, chacun a un job ou pas de job, ou chacun se démerde pour ramener du fric et on met tout en commun. Et c'est vraiment la mise en commun des efforts de chacun qui fait qu'on a pu organiser autant de free comme ça. Quand on essaye aujourd'hui, et ça c'est super intéressant, je trouve, d'organiser une free, on se dit allez, on remet le tablier. On y va, on appelle tout le monde est motivé. Hérétique, ça existe, il y a un groupe, il se passe des choses, il y a une actu. Et quand on essaye d'organiser quelque chose qui n'est pas encadré par la loi, avec sans billetterie, sur donation, on n'a plus les ressources en termes d'énergie et de temps. Les 80 personnes qui bossaient gratos pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui mettaient la main à la pâte, qui venaient le week-end, il y a des mecs qui peignaient des décors, ils venaient le week-end, le lundi matin, ils étaient au boulot, on avait déjà des enfants à l'époque, je veux dire, c'était pas... Aujourd'hui, on a du mal à mobiliser ça. On a vraiment du mal à mobiliser cette énergie qui était gratuite et pleine de solidarité et de coopération.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut un truc un peu structuré avec potentiellement des cachets versés aux gens qui s'investissent, quoi. Et...
Ouais, c'est ça, et les gens n'ont plus le temps.
Mais c'est marrant, en fait, parce que ça suit un peu la progression avec Internet. Sur Internet, au début, tout était gratuit tout le temps. Il y avait des sites complets où les gens écrivaient pour rien. Et puis maintenant, tout est derrière un paywall, tout est...
Et puis il y a ce truc d'expérience, c'est vrai. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est complètement vrai, mais en tout cas, on s'interroge régulièrement sur le tissu social aujourd'hui, sur où est-ce qu'on peut se retrouver ensemble, dans quelle mesure on est prêt à faire des efforts ensemble, à se rencontrer, à discuter, à s'engager de manière associative, etc. Ça existe toujours, bien sûr, mais... Vous, en tout cas, vous avez vécu une expérience quand même assez unique, tu vois, de autant de force dans le même état d'esprit pour arriver à concrétiser des projets comme ça. C'est rare, en fait.
Ouais, et c'était à une époque où on pouvait le faire, où on se faisait taper dessus qu'une fois sur 10, on va dire.
Par les flics, tu veux dire ?
Ouais, on était dans un entre-deux où on pouvait faire des choses qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas faire, ou en tout cas qu'ils font en prenant beaucoup plus de risques. Mmh. Et en discutant avec les générations de la free party d'aujourd'hui, ils sont hyper structurés, beaucoup plus que nous. Bah, nous, déjà, on n'avait pas Internet. Donc déjà, va trouver le gars. Et parfois, on roulait 9 heures pour aller à une teuf, je ne sais pas où, en République tchèque, ou je ne sais pas où. On ne trouvait pas la teuf, on rentrait, voilà.
Ouais, mais c'est ce que j'ai demandé. Ouais. Comment ça s'organise ? Donc, tout à l'heure, tu as évoqué les infolines. Pour avoir... parce que quand tu racontais ta première free party où tu faisais le mur, là, que t'allais à Porte-Maillot, la fête, elle n'était pas à Porte-Maillot. Porte-Maillot, c'était un lieu de rendez-vous, ouais. Et ensuite, ça bougeait.
Donc, rendez-vous Porte-Maillot, ouais. Et à Porte-Maillot, des personnes non identifiées regardent un peu, fou, et s'ils voient que t'as une tronche à aller à la teuf, ils te donnent un papier. Sur le papier, il y a un lieu de rendez-vous, genre à Meaux, ou tu vois, des trucs comme ça, loin.
Ouais.
Tu vas à Meaux au lieu de rendez-vous, et au lieu de rendez-vous, il y a des navettes que tu suis qui emmènent par, je sais pas, 15 bagnoles par 15 bagnoles, ou plus ou moins, selon. Et comme ça, ils arrivent à brouiller les pistes au maximum à l'époque.
Ouais, d'accord. Donc, c'est quand même un chantier, quoi, pour y aller. Hein.
Et donc, rendez-vous Porte-Maillot, le mec qui donne les flyers à Porte-Maillot pour dire où est le point de rendez-vous, il doit jauger si t'es un flic ou pas. Toi, moi, après 15 ans, ça va, personne. Mais,
on peut prendre peut-être un exemple, parce que il y a ces fêtes qui sont organisées partout en France, d'ailleurs, y compris vous, Hérétique, même si vous êtes vraiment plutôt en région parisienne, vous allez dans plein d'endroits en France, etc., pour faire la teuf et pour organiser des teufs. Puis il y a un moment où il y a quand même pas mal de répression, on commence à pas mal vous embêter, et puis vous rentrez dans une espèce de logique. Il y a un truc qui ressort comme ça dans le docu, je sais plus qui dit ça, mais qui dit en gros, c'est KRS qui dit ça, un de vos copains, qui dit, à un moment, on a voulu se faire Paris, on en avait marre, tu vois, qu'on nous embête, on a voulu devenir des activistes terroristes sonores, quoi. Genre, on va détruire des lieux dans Paris. Enfin, le côté exploit, un peu comme dans la culture graffiti, tu sais, de se dire ça cet endroit-là, je vais me le faire.
La station Louvre.
Et ben vous avez eu un peu ces mêmes états d'esprit, et notamment ce qui va ouvrir un peu le truc, c'est sous Bercy. Est-ce que tu veux nous raconter un peu justement cette histoire, comment ça s'est organisé, comment on fait un truc pareil?
Ah ben on a entendu parler du spot, on a été le voir, on s'est dit ah ben là c'est sûr, faut faire un truc, et puis on l'a fait. C'était très simple, Bercy. Ce lieu existe, il est ouvert, il est facile d'accès.
C'est quoi donc ? Parce qu'il y a une gare à Bercy.
Une gare de fret.
Ouais, la gare de fret. Je crois que c'est lié à l'ancienne zone viticole pour décharger le vin. Quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est une gare de fret, c'est-à-dire que quasiment sous le ministère des Finances, dans ce coin-là, en sous-sol, il y a un endroit avec des immenses quais de chargement qui servent à ce que les camions arrivent à cul. Et c'est des hangars souterrains. Et ces hangars souterrains, inexploités, abandonnés, vraiment complètement abandonnés. C'est une friche industrielle sous Bercy, disponible, pas surveillée. Donc on voit ça, on se dit, bah là, c'est sûr qu'il faut faire un truc là-dedans. On a les trucs qu'on a un peu sous-évalués ou mal anticipés, c'est l'embouteillage sur les voies sur berge.
ceux qui viennent à la teuf, ils sont quoi? Ils sont prévenus dernier moment?
Dernier moment. Alors le système de l'infoline, c'est on distribue des flyers sur lesquels il y a un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, donc c'est téléphone fixe à l'époque, donne accès à un répondeur téléphonique sur lequel on enregistre l'adresse de la teuf au dernier moment.
Ah ouais,
donc okay. Nous, à minuit ou à l'heure où on est prêt, il y a des mecs qui attendent, des fois il y a des infolines qui sont arrivés à 2h du mat, c'est déjà arrivé. à minuit, on enregistre sur cette boîte vocale. Salut, rendez-vous ici. Et pareil, on va aller chercher au point de rendez-vous. On donne rarement directement l'adresse de la teuf sur l'infoline, parce que les flics ont tous le flyer avec le numéro de l'infoline.
Ah, ça veut dire que le mec apporte de... maillot, il jauge mal quand même.
Bah, là, dans notre cas, pour Bercy, je sais plus où était le rendez-vous, mais ouais. En général, on donne un point de rendez-vous plutôt que de donner le point de la teuf directement, ouais. Et après, on essaye de voir si on peut ne pas emmener les flics, c'est mieux.
Oui, et puis de toute façon, les flics, on nous parlait des RG, etc., ils cherchent à se renseigner, ils mettent sur écoute, etc. Je sais pas si vous l'êtes déjà à ce moment-là, mais ils font tout pour justement essayer d'anticiper les teufs pour les empêcher.
Alors là,
et...
c'est le moment, on est vraiment sur écoute. Bercy, c'est le moment où on... Ils savent ce qu'on fait et ils n'arrivent quand même pas à avoir Bercy. Ni Molitor. Les énormes teufs à Paris qu'on a fait, ils n'ont pas réussi à les anticiper. Ils n'ont pas su.
Mais du coup, d'un point de vue vraiment genre légal, respect de la propriété privée ou que sais-je, quand vous arrivez sur Bercy, il y a un coup de pince, Monseigneur, quand même, pour péter un cadenas, ou vraiment le truc est ouvert aux 80 et...
Je me rappelle pas de ce détail.
Malin, mais pratique.
La pince, Monseigneur, nous a jamais dérangé ni fait peur.
Non, mais pour savoir, parce que à partir du moment, je crois, où vraiment tu forces l'entrée, bah, techniquement, tu t'exposes à des potentielles sanctions.
Ouais, ça, on était prêt à assumer ce type de sanctions.
Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on parlait d'une forme de respect, etc. Bah, vous faites pas ça n'importe comment, à la fois dans l'organisation et tout, mais aussi dans le choix des lieux. Parce que l'idée, c'est pas d'emmerder des gens, tu vois, sur une propriété utilisée, ouais. Machin, etc. Souvent, en fait, c'est des lieux plus utilisés. Tu vois, alors, tu parlais de Bercy. La piscine Molitor, c'est un super exemple. Parce que tu peux nous rappeler juste un peu ce bâtiment, même, parce que c'est un bâtiment historique, classé,
déjà,
la piscine Molitor, qui à ce moment-là, et plus utilisé. C'est une magnifique piscine en plein air, avec des balcons autour, style art déco.
C'est ça.
Vraiment un monument classé, mais plus utilisé. Et vous dites, mais c'est dommage, il faut l'honorer ce lieu, il n'y a pas d'un truc comme ça, tu vois.
C'est ça, alors ça c'est Léo, avec toute sa sémantique. Léo qui estime avoir honoré le lieu et lui avoir rendu service.
Raconte-nous un peu, c'est certainement votre plus grand exploit, entre guillemets. Ça va marquer l'histoire de la fête dans toute la France.
C'est un événement iconique, ouais.
C'est vraiment culte, la piscine Molitor.
Complètement, c'est culte parce que, contrairement à Bercy, c'est en plein air. Donc ça change beaucoup, c'est-à-dire que le plein air, c'est des immeubles autour ont vu sur la teuf. C'est vraiment... Bercy, ça reste caché. C'était déjà un sacré coup, Bercy, hein, de mettre je sais plus combien de milliers de personnes là-dessous. C'était fort, c'était intense. D'avoir fait ça dans Paris, c'était fou. Mais alors Molitor, le côté lieu classé, ouais. Le lieu qui est magnifique avec toutes ces coursives, avec les anciens vestiaires, là où les gens se changeaient. La piscine en bas et la situation dans le 16e, c'est pas pareil, le 12e, Gare de Lyon.
On est entre le Parc des Princes, Roland-Garros, ce lieu bourgeois, ouais, machin, etc. Ouais, ouais,
et vous allez faire dans les beaux quartiers.
Avec un gros centre système, en plein air, balancé du... Enfin, tu peux pas passer, ça peut pas être secret. C'est, tout le monde va être au courant dans le quartier toute la nuit.
Nous, on avait prévu de finir tous en garde à vue. Enfin, je veux dire, notre plan, c'était ça. On a attendu qu'il y ait suffisamment de monde à l'intérieur pour allumer la musique pour que la police ne puisse plus intervenir. Parce que la police, ils ont plein de torts, mais ils vont pas non plus charger dans un endroit avec... Bref, il y a 2000 personnes, ils vont pas charger. Ça, on s'en doutait. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis, on avait créé une association pour l'occasion. Et l'association, je sais plus comment elle s'appelait. Je crois qu'elle s'appelait... pour le droit à honorer des lieux ou à rendre vie à des lieux abandonnés, un truc comme ça. Et quand ils ont appris ça, ils ont eu super peur qu'on soit des squatteurs et qu'on soit là pour longtemps. Ouais. Et la réaction, ça a été plutôt un soulagement, que ce soit juste une free party qui va durer qu'une nuit, plutôt que un campement qui allait rester pour une durée plus longue. Donc eux, ils ont plutôt bien réagi en se disant, bon, ça va, c'est une free, ils vont partir demain. Mais on est parti, rien, personne, rien, pas de nouvelles.
Ah ouais, pas une javet, pas...
Rien, personne en garde à vue.
À 11h du mat.
Ouais, on a démonté, on a nettoyé, on est rentré, on est parti, terminé. Le lendemain, la piscine était murée, fini, rien.
Tu te rends compte de la folie du truc? Vous faites venir tu te rends compte, un flux déjà de milliers de personnes, hein, 3000, 4000, 5000, je sais pas combien, vous avez une idée?
6000 d'après la police, mais on sait pas vraiment.
Tu te rends compte qu'ils débarquent déjà, comment tu peux passer à travers autant de gens qui arrivent à un endroit précis, c'est pas possible. Tu le vois quand tu as un spectacle, un concert et tout, tu vois des flux, des masses de gens, tu vois. Donc il y a ça, il y a le fait que ça va durer toute la nuit avec du son qui balance à plein pot, etc. Et vous avez pas d'emmerde derrière, c'est incroyable.
Pas d'emmerde derrière, mais une loi.
Ah, quand même. Ah oui, il y a quand même le coup de massue qui arrive un peu après.
Là, on a commencé à avoir le l'Assemblée et des représentants de l'Assemblée qui se sont penchés sur le sujet des fruits en disant, alors on ne sait pas si c'est lié. C'était un tout. À cette époque-là, il y a une telle affluence dans toutes les teufs, c'est vraiment...
On est en 2001, je précise.
Ouais, on est en 2001. Il y a, à chaque teuf qu'on fait, on a 5000 personnes. Nous, alors nous, on est un peu... on est particulier, on ramène beaucoup de monde, mais de toute manière, tout le monde ramène beaucoup de monde. C'est une époque où les fruits sont hyper remplis, hyper chargés, les technivals sont immenses, les technivals sont pas encore autorisés. Il y a eu toute une période où le Sarko, ministre de l'Intérieur, a permis l'organisation de festivals, donc le technival, c'est un endroit où plein de sound systems se réunissent les uns à côté des autres et créent une espèce de grand festival de techno. Mmh. On a toujours fait ça 100% illégalement, dans des endroits très reculés, parce que, voilà, pour les questions de nuisances sonores, etc. Et on n'a jamais pensé qu'un jour, on aurait 30 ou 40 000 personnes à un Technival. Ça ne nous est jamais venu à l'idée. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé Technival du 1er mai, région parisienne, 30, 40, 50 000 personnes. Donc là, forcément...
On
change d'échelle, ça nécessite de mobiliser toute la garde mobile. Les mecs, plutôt que de les appeler le matin, il y a un Technival, donc Sarko a décidé d'organiser ça et de l'encadrer. Et c'est des années où il y a eu une affluence massive, parce qu'en plus c'était relayé sur les médias mainstream, c'était relayé au JT. Donc pour rappel, à l'époque, il n'y a pas YouTube, il n'y a rien, et donc tout ce qui est relayé au JT, c'est audience maximale. Donc les mecs, oui, alors il y a un Technival en région parisienne, ça passe au JT le jour 1, le lendemain, t'as 50 000 personnes de plus au truc.
Ouais. En plus, c'est, pour vous, ça doit vraiment changer les choses, parce que tu parles là d'organisation plus officielle et tout, faut faire, tu vois, les choses dans la... Parce que tu reprends l'exemple de la piscine Molitor, comme c'est absolument pas officiel, faut préparer le terrain. Pendant des mois, vous préparez. Il faut nettoyer le lieu. Faut préparer des décos, des machins, etc. Pendant des mois, vous devez aller sur place pour préparer la teuf et sans se faire voir, parce que s'il y a des mouvements un peu trop visibles, tu vois, les flics, ils peuvent commencer à avoir des indices.
Là, pour Molitor, c'était déguisement d'ouvrier, gilet jaune, comme si on y bossait, quoi. Radio, talkie-walkie, on y va.
Mais du coup, c'est quoi le... Parce qu'on insistait en début d'émission sur le côté, alors, à part pour le mur d'enceinte, qui est vraiment, lui, le centre de l'attention en termes de préparation, le reste, c'est quoi? C'est juste genre déblayer des trucs, enlever des éléments qui pourraient être dangereux pour le public ou...
Ouais, alors dans le cas de Molitor, c'était clairement dangereux, il y a des canettes partout, c'était squatté, c'était tout tagué, tout graffé, c'était un repère de graffeur. Donc avant que ce soit muré, parce que nous quand on y a été, c'était muré, on a dû défoncer les murs de parpaing pour y entrer, mais on a bien vu qu'il y avait eu une vie avant, ouais. Type un peu catacombe ou endroit comme ça, urbex quoi, un urbex de l'époque. Ça a juste consisté à nettoyer le dance floor pour que personne se casse la cheville sur une canette, c'était aussi simple que ça, donc on a nettoyé. Pas de déco, très très limité, juste des projecteurs, une scène pour les performeurs. On avait des gros shows de performance qui étaient faits par Circus Road System, CRS. faut voir les images, c'était impressionnant. C'est des mecs qui font de la pyrotechnie, qui ont des guitares électriques, qui crachent du feu. C'est
littéralement Mad Max.
C'est vraiment, ils sont géniaux. Et on a fait pas mal de trucs avec eux, donc eux, on leur fait une belle place pour que ce soit très visible et bien mis en avant. Quelques projecteurs, quelques bâches peut-être, et c'est tout. Et sinon, là, dans le cas de Molitor, c'est la piscine, le décor.
Ouais.
Pas besoin de décor. Et c'est d'ailleurs après Molitor qu'on a commencé à mettre en place des vrais décos, avec de la vraie construction de décor, de la vraie fabrication. On s'est maqué avec un sound system qui s'appelle Massimas, qui était spécialiste des belles décos, et on faisait des hérétiques Massimas, et hérétiques Massimas, c'était... on a un entrepôt pendant 6 mois, on arrive à faire des décos dedans, tout le monde vient bosser à tour de rôle dans cet entrepôt, il y en a qui dorment, il y en a qui dorment pas, il y en a qui viennent boire l'apéro, pendant qu'ils boivent l'apéro, ils coupent un peu du bois, ils plantent 2-3 clous. Et à la fin, au bout de 6 mois, on a un super décor, on fait une grosse teuf, on la décore. Et là, c'était de l'ordre, c'était beaucoup plus scénographié.
C'est-à-dire que Molitor, ça a vraiment été un point de bascule, en fait. Où après, vous pouviez plus faire des trucs qui seraient moins bien visuellement... On ne pouvait pas retourner à un truc trop simple, finalement, c'est ça le...
Et puis, Molitor, ça a aussi été un point de bascule en termes d'audience et de succès. Ça a fait beaucoup, beaucoup parler de nous et on a eu beaucoup de public suite à Molitor.
Ouais,
parce que quand on disait tout à l'heure, c'est culte, c'est culte. C'est-à-dire que les gens qui, même pas seulement qui aimaient la fête, mais qui aimaient la musique électronique et trucs comme ça, etc., c'est une soirée qui a marqué l'histoire.
Ouais, c'est Woodstock, quoi, le truc.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que c'est un mode de vie aussi, tout ça. Il y a presque un... Pas un paradoxe, mais tu sais, on se dit, parfois c'est de l'extérieur, qu'on connaît mal, on se dit, c'est à l'arrache, c'est les camions, machin, etc. Est-ce qu'il y avait, par exemple, divers profils parmi les gens, tu vois? Est-ce que tout le monde avait ce mode un peu plus nomade de vie, un peu clairement en marge de la société? Est-ce que certains, c'était genre limite, tu vois, leur juste hyper, tu vois, normal à travailler à la défense la semaine et puis après venir... Il y a plusieurs modes de vie qui gravitent autour de ça, la teuf et d'hérétique.
C'est hyper hétéroclite. Il y a des gens qui viennent en costard, en free party, après avoir bossé à la Défense. Il y en a plus qu'on le soupçonnerait. Il y a, en termes d'âge, de genre, c'est très ouvert, tout le monde vient, il n'y a pas de catégorie particulière. Par contre, se dessine quand même un profil majoritaire qui est anticapitaliste, plutôt en marge, chez les participants, et après chez les sound systems eux-mêmes, le mode de vie dépend au cas par cas de chaque sound system. Il y a des sound systems entièrement nomades qui vivent dans des camions, qu'on appelle les travelers, qui eux ont choisi la vie héritée des Spiral Tribe, qu'on pourrait associer à des gens du voyage un petit peu, sauf que partout où ils vont se caler, ils vont mettre de la musique. Ils sont très organisés parce qu'ils sont en système D, ils ont des enfants, ils doivent les nourrir, ils doivent subvenir à leurs besoins, ils doivent mettre de l'essence dans leur groupe électrogène, ils doivent mettre de l'essence dans leur camion. Donc ils sont pas du tout si à l'arrache que ça. Ça peut paraître à l'arrache parce que c'est des looks pas possibles, c'est des crêtes, des chiens, des pis arrivent en bande comme ça, ça peut avoir l'air comme ça d'être à l'arrache, c'est pas du tout tant à l'arrache que ça. Les travelers sont très bien organisés.
C'est exigeant de vivre en marge de la société,
c'est
en fait.
C'est hyper exigeant. Et ça nécessite beaucoup de solidarité et de débrouille. D'ailleurs, on se demandait avec Damien Racledoyac, le réalisateur du docu, là, on est en train de faire un nouveau projet sur l'héritage des free parties, et en regardant les jeunes générations qui vont en free aujourd'hui, on se demande si c'est pas eux qui sont le mieux équipés pour la vie de demain et le retour à une vie sans énergie, sans pétrole, sans... parce qu'ils sont tellement...
Des croissances qu'ils vont appliquer.
Exactement. Eux, ils savent vivre comme ça. Ils savent vivre en troquant, en s'aidant, en étant ensemble, en vivant les uns avec les autres de rien. Enfin, en tout cas, de rien d'inutile, de rien de superficiel. Et on se demandait même si c'était pas un genre de modèle pour le futur, carrément.
Intéressant.
Au-delà du fait que les styles vestimentaires peuvent faire peur à monsieur et madame tout le monde, qui se dirait c'est des punks à chiens, ils pourraient être dangereux ou drogués. Si tu passes cette façade, derrière, c'est des gens hyper structurés, hyper organisés, fédérés pour échapper à la police, pour survivre ensemble sans avoir de travail officiel, pour mettre de la musique. Donc ça veut dire que, énergétiquement parlant, ils doivent avoir de l'électricité, des compétences, savoir réparer des caissons. Il y a tout un art à pouvoir faire ça.
Mais ce mode de vie là de traveler, c'est tenable dans le temps?
Moi, je l'ai pas tenu.
Tu l'as fait.
Moi, je suis parti 5 mois en voyage,
okay.
En vraiment traveler, à poser du son à chaque arrêt. Et c'est un mode de vie intense qui demande un engagement exclusif. Il y a plus de place au repos. Enfin, si, il y a de la place pour le repos. On a tous notre petit coin dans le camion.
Mais tout tourne autour de ça, en fait, c'est ça le...
Tout tourne autour de ça, on est en communauté. Donc il faut aussi bien s'entendre avec sa communauté. Et là, la communauté, c'est pas ta famille, c'est des gens qui sont là, que tu les connais pas forcément aussi bien que ce que tu pensais après avoir voyagé 5 mois avec. Donc il y a certaines personnes chez Hérétic qui ont choisi de continuer à vivre en camion. La plupart, nous, on est quand même un groupe sédentaire.
D'accord.
On a pris une maison, on a fait très peu de traveling finalement. On a beaucoup voyagé pour aller à des teufs organisés par des travelers, et on les connaît, et c'est des milieux poreux, pareil, c'est des milieux proches de nous, mais nous, on est quand même un sound system sédentaire.
Ouais.
Sédentaire, basé en région parisienne. Alors aujourd'hui, il y a une grosse diaspora, 30 ans après, on est partout, mais globalement, quand on opérait, on avait une base à Paris et on partait, on faisait des voyages un mois, deux mois, et puis on revenait. On avait bus, camion, tout ça, on a vécu dedans, mais sur des courtes durées. Et moi, j'ai trouvé ça très dur.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as trouvé? Ouais, c'est le côté de vivre le jour, avec penser sans cesse à comment s'en sortir, à trouver.
Ah, ça allait. Ouais. Non, alors ça, au contraire.
Ah ouais.
Alors paradoxalement, comment s'en sortir? En traveling, on est dans une solidarité extrême et c'est très rassurant. ils vont pas te laisser tomber. Mmh. Voilà, et on est là, on est ensemble, je vais pas être laissé sur le chemin, s'ils m'oublient, ils vont revenir me chercher, si j'ai un problème, ils vont prendre soin de moi. C'est très familial, on est vraiment une famille, vraiment au sens propre. Parfois on s'entend pas, parfois on s'engueule, parfois on se tape dessus, mais...
Ouais, c'est un clan, quoi.
C'est complètement un clan. Donc ça va, le côté débrouille et comment subvenir à nos besoins, ça allait, ça me faisait pas du tout peur. C'est plutôt l'intensité permanente. Et allez, on monte le son et c'est reparti, et bam, 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 et c'est reparti, et on continue, et il y a plein de gens qui arrivent, et plein de gens qui s'en vont, et on repart, on reprend la route.
C'est côté vraiment fête aussi, trop de fêtes presque.
Répétition de la fête.
Les moments de repos, c'était les moments de route, je me souviens, je me disais, ah, j'espère qu'on n'arrive pas trop tôt là, ouais. On est bien, il y a des beaux paysages, c'est super, et on arrive, bam, on ouvre le camion, allez, on repose le son, c'est parti, claque, branchement, nanana, live. Après, moi, je voulais juste faire de la musique. J'étais pas tellement dans le mode de vie, j'étais plus dans l'objet artistique d'un set. Mmh. C'est ça qui me plaisait, moi. C'était la techno qui me plaisait.
Est-ce que tu as vu ce... Je suis sûr que tu l'as vu. Tu as vu ce film, Sirat?
Ouais.
Parce que ça présente aussi cette communauté de travelers. D'ailleurs,
c'est le père et le fils qui vont chercher leur fille et sœur.
Exactement. Leur fille et sœur a disparu et elle était dans le monde de la teuf. Et donc, ils vont dans des teufs pour essayer de la retrouver. Mmh. Et donc, ils découvrent le monde des travelers, des nomades, donc ils organisent des teufs, etc. Et pour le film, d'ailleurs, ils ont les acteurs. Enfin, il y a quelques acteurs, etc. Mais ceux qui jouent vraiment les travelers, c'est des vrais nomades, des vrais teufeurs. Ouais. T'en as pensé quoi du film? Tu as trouvé ça bien?
Alors, moi, j'ai adoré. Ouais. J'ai trouvé que c'était une super métaphore de la vie. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le biais du survivant.
Ouais.
Le biais du survivant, donc les personnes qui ont survécu à des événements tragiques peuvent incarner quelque chose de très positif si personne ne sait que les événements passés ont été tragiques. C'est-à-dire que si je suis le seul survivant d'un crash en avion, l'avion s'écrase, tout le monde voit l'avion s'écraser. Il y a 120 morts et moi j'arrive... J'ai survécu et je descends au village. Si je dis pas qu'il y a eu 120 morts, ils vont tous se dire « Ah bah ça va, les avions c'est safe, même quand ça se crache, il y a un survivant. » C'est ça le biais du survivant. On a beaucoup ça, nous, hérétiques. On a payé cher l'addition d'une vie en risque.
Il y a eu des morts, quoi.
On a eu une grosse intensité dans notre vie et on a eu beaucoup de drames. Et ça, faut pas le minorer.
Minimiser, ouais.
Et dans Sirat, je vais pas spoiler le film parce qu'il y a quand même un twist assez énorme. C'est mon fils de 17 ans qui m'a emmené voir Sirat. Je savais pas de quoi ça allait parler. J'ai halluciné qu'il m'emmène voir ça. Déjà, la première partie du film sur les free, sur l'aspect traveler, est très bien fait. On voit bien justement l'esthétique du son, comme ils font attention à ça.
La musique est hyper présente. T'entres en transe avec le film, tu vois.
J'adore. Trop bien. Et sur la partie dramatique du film et ce qui se passe pendant le film, qui est très dur, ouais. Je trouve que ça illustre très bien. Pendant tout ce film, on se demande à quel moment ça va tomber le drame. On les voit, ils font ça, ils sont au bord d'une falaise. Ah, est-ce qu'ils vont tomber dans la falaise? Ils tombent pas. Ensuite, ils font les cons dans le camion. Ah, ça va. Ensuite, il y en a un qui fait à moitié une overdose. Finalement, ça va.
Ne spoilons pas.
Mais bon, et tout le temps, tu te dis, c'est un peu ça notre vie. On était tout le temps en train d'être limite. Et à chaque fois, ça passe, à chaque fois, ça passe. Et puis, parfois, ça passe pas. Mmh. Et ça, faut quand même le dire. C'est important. La free party, c'est super, c'est génial. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes générations s'échangent des bonnes pratiques de free party. Comment ne pas mettre en danger le public? Je trouve ça génial ce qu'ils font. Nous, on faisait pas ça. Nous, c'était libre, 100% libre.
Mais c'est pas justement un peu antithétique d'avoir une free party organisée, enfin un petit peu trop cadrée peut-être?
Bon, on en parlera parce que c'est ce qui va arriver d'ailleurs.
Moi, je trouve ça bien parce que c'est fait en interne par eux-mêmes pour faire profiter à leur public d'une expérience non dangereuse, safe.
Mais est-ce que le danger, c'est pas une partie inhérente du truc, tu vois, te prendre 400 volts dans la gueule parce que t'as marché sur un câble mal, mal isolé ou...
Non. Celui-là, c'est horrible. Non, mais le danger, par exemple, de tomber d'un édifice, c'est arrivé plein de fois. On ferait partie des mecs, parce qu'on fait ça dans des urbex, dans des entrepôts abandonnés.
Ils grimpent et puis...
On sécurise pas forcément toutes les coursives de l'usine. Ouais. Parfois, c'est des friches industrielles gigantesques et tu retrouves des mecs coincés dans des endroits ou qui sont tombés d'endroits. C'est assez fréquent. Mmh. Bon, ça...
On peut
pas l'éviter, mais...
Puisqu'on parle de ça, dans le documentaire, il y a des trucs assez touchants là-dessus. Il y a plusieurs membres d'Hérétique qui disent quand même que la fête tous les week-ends, et mine de rien, ça se défonce beaucoup. Au début, c'est cool, puis au bout d'un moment, le côté festif s'estompe quand même à force, tu vois, de répétition, etc. La drogue aussi, quand c'est maîtrisé, pourquoi pas. Quand c'est plus maîtrisé, ça devient un vrai problème. Vous avez connu, vous viviez, enfin une partie de l'équipe vivait dans une maison à Aulnay. Et il y a eu un grand drame, je le raconte parce que c'est dans le documentaire, etc. Il y a eu des articles de presse où en fait il y avait un groupe électrogène, si je ne dis pas de bêtises, qui était utilisé pour l'électricité, etc. Il y a eu une fuite pendant la nuit et cinq personnes pro-diarétiques sont mortes.
Il y a eu 6 décès et le groupe électrogène faisait du bruit et pour des plaintes de voisinage, on a rentré le groupe électrogène dans le garage.
Et donc c'est le monoxyde de carbone. Voilà.
Ouais. 2 personnes ont survécu. Gros drame, alors là pour le coup complètement accidentel, c'est-à-dire que c'est aucun lien ni avec la drogue ni avec la free party, c'est vraiment une...
Ouais, c'est un accident domestique en fait.
C'est complètement un accident domestique.
Mais qui a marqué l'histoire du groupe, quoi. Ça a été dur, j'imagine, pour beaucoup.
Ah oui, c'était horrible, ouais, bien sûr.
C'est ouf, parce que c'est l'ironie, hein, pardon, mais votre but à vous, c'était de faire le maximum de bruit possible en soirée en fait. Et il y a un accident qui arrive parce que justement vous avez voulu pas trop faire de bruit pour pas emmerder les voisins. C'est dingue quand on y pense.
Après, c'est important de comprendre qu'on était des jeunes, avant tout des jeunes avec des énormes guillemets normaux comme tous les jeunes. Ouais. Donc nous on a 20 ans, on est en coloc, on est des jeunes, on aime bien faire les cons, on aime bien faire des gros coups, on aime bien faire des pieds de nez à la marée chaussée. Ouais. Mais on n'est pas méchants et on cherche pas à nuire. Et dans un contexte de coloc et de voisinage, bah oui, le voisin, il gueule, on essaye de faire au mieux. Alors, les mecs, ils ont les hérétiques comme voisins, ils ont pas de chance, on va pas se mentir.
C'est pas simple.
Voilà, on met de la musique, on est bruyant. Ouais. On est bruyant, mais au-delà de ça, on n'est pas des jeunes ni dangereux, ni qui cherchons à nuire, à aucun moment. On est toujours restés des jeunes, comme des jeunes qui s'amusent, et peut-être, je dirais qu'on était ambitieux dans la déconne. C'est de cet ordre-là, hein, le groupe.
Ouais.
Mais c'est pas au-delà de ça. La dimension nuisance ou politique ou quoi, quelqu'un qui toque à la porte parce qu'on fait trop de bruit, on va lui dire « Ah, désolé », on va aller gueuler sur le DJ « S'il te plaît, baisse un peu, ça fait 4 fois qu'il vient le voisin », comme tout le monde, en fait. Ouais. Et ça n'a pas du tout été traité comme ça. Quand la police est arrivée derrière, on n'a pas du tout été pris comme des jeunes en coloc. Ça a tout de suite été « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où est la drogue ? Sortez tout !» Et on n'avait rien à voir...
Même pas considérés comme des victimes, finalement, ce qui est quand même...
Non, alors pas du tout.
Ouais, c'est fou, ça.
Pas du tout. Les personnes qui peuvent en témoigner, celles qui vivaient dans la maison à l'époque et les personnes qui ont survécu, pourront témoigner du fait qu'ils ont vraiment souffert de pas du tout être considérés comme des victimes, alors qu'ils venaient de perdre tous leurs potes dans un accident horrible. Ouais, très dur, très dur.
Il y a le témoignage d'un des membres d'Hérétique qui a perdu sa compagne dans le drame, etc., qui raconte ça. C'est... Et il y a aussi... Il y a le témoignage aussi de Léo, qui est un membre d'Hérétique, qui a eu du mal à s'en remettre, et même qui a eu, alors je sais pas si c'est lié, mais qui derrière a eu des problèmes psy, ça a été difficile.
Il s'en est jamais remis, lui. Ouais. Lui, c'est le seul qui s'en est jamais vraiment remis du tout. Ouais. Personne s'en est remis, mais tout le monde a eu des réactions plus ou moins fortes, intenses et nuisibles, mais lui, Léo, il s'en est jamais remis. Ouais. Il était diagnostiqué, il était schizophrène, mais ça a pété un truc en lui.
C'était parce qu'il apparaît dans le documentaire, il est décédé depuis, malheureusement. Ouais, il avait même pas 50 ans quand il est décédé.
Non, ouais, 45 ans.
Pour dire que c'est une vie où voilà. Là,
ça use, ouais.
C'est parfois aussi une vie dure pour certains, quoi. J'imagine. Ouais.
Non, on a eu beaucoup de drames, hein, de morts. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des suicides, il y a eu des morts accidentelles, il y a eu des morts directement liées à la consommation de drogue.
Comment tu le... tu te dis quoi ? C'est un peu, entre guillemets, le coup de la marginalité, de dire on va contre la société et ses dérives, on essaie de créer notre modèle et en créant... Et comme ce modèle, il n'y a pas de chemin tout tracé, on tâtonne et parfois on se plante, enfin c'est...
La marginalité et le fait d'aller contre la société, ça ne veut pas forcément dire se mettre en risque. Ouais. On peut aller contre la société et faire une grande école et militer et se retrouver dans un parti politique et pas forcément être en danger.
Non, la marginalité, par contre, c'est sociologiquement...
protégé par la société aussi.
Bah, c'est admis, en fait, que tu vois, l'espérance de vie d'une personne SDF en France, c'est moins de 45 ans, je crois, en fait. Donc,
Mais non, on peut pas vraiment être considéré dans la case marginaux, puisque... On a organisé des fris, mais on rentrait chez nous derrière. Ouais. La marginalité, le temps de la fris,
Oui, c'est vrai, moi je parlais peut-être plus des travelers vraiment qui sont complètement en dehors de la grille. Mais...
Alors, les travelers, comme tu le vois très bien dans Sirate, y en a plein qui n'ont plus de bras, plus de dents. Plus de... Quand t'es un traveler, t'es hors du circuit sécurité sociale. Ouais, déjà, à partir de là, c'est chaud. Et quand on est à chaque jour devoir réfléchir à comment tu vas trouver un billet pour faire ton plein d'essence, alors quand ton fils a une rage de dents et que c'est une infection dentaire, t'es tout de suite plus en risque, forcément. Mais nous, c'était pas notre cas à nous, hérétiques, en tant qu'hérétiques. Nous, on avait des cartes de sécurité sociale et voilà, pour la plupart, enfin pour la grande majorité d'entre nous, on peut pas dire qu'on vivait à 100% en marginalité.
Mais alors comment, c'est quoi, c'est les addictions, c'est une vie un peu violente,
les excès, le fait de l'ambition démesurée, le fait de vouloir toujours aller plus loin, plus, toujours plus, toujours plus, et puis au point que ça devienne carrément dark et glauque, les quantités astronomiques de tout, trop de techno, trop de d'alcool, trop de tout, et c'est les excès qui ont mené à nous mettre en danger plus que la marginalité.
Parce que le plan, c'était d'en faire une chaque semaine.
On en faisait une chaque semaine, mais il n'y avait même pas de plan. Hein. C'était,
mais il n'y a personne qui s'est dit, ouais, peut-être toutes les deux semaines, ça serait peut-être pas mal. Ou...
Non, après, personne n'était obligé de venir. Moi, par exemple, je n'allais pas toutes les semaines.
D'accord. Okay.
Moi, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup souffert quand on a voyagé 5 mois ensemble, c'est d'avoir des teufs tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je saturais, personnellement, mais il y en a qui ne saturaient pas. Je pense que c'est les excès, c'est même pas les addictions, c'est les excès. Les excès qui mènent à des addictions et qui mènent à des drames. L'addiction, c'est presque déjà une conséquence, plus qu'une cause.
C'est, peut-être qu'on peut revenir, après on parlera de ton autre vie presque, en fait c'est lié, on va le voir, hein, mais aussi de l'activité de Inoff, etc. Mais peut-être faire un point quand même musique. Tu vois, sur, parce que tu le disais, c'est des modes de vie différents, des gens différents parfois. Dans les organisateurs, dans ceux qui viennent au teuf, etc. Mais ils se rassemblent tous pour la musique, pour la techno, parce qu'ils aiment ça. J'aimerais bien qu'on fasse un peu un point sémantique. Déjà, tu sais, parfois, il y a techno écrit avec un K. Tu sais, techno, normalement, c'est C-H-N-O, etc. Et puis parfois avec un K, et j'ai l'impression que c'est une autre esthétique.
Complètement. Tout ce qui est avec des K,
comme hérétique,
c'est hardcore.
C'est soit hardcore, soit free party. Quand je regarde ça avec du recul, ça m'amuse, ça me fait sourire parce que on trouvait ça cool.
Ouais.
Mais un cas là.
Ouais, mais le cas, ça a toujours été un truc de.
Moi, je m'appelle Christophe, j'aurais mis un cas. Christophe. Roquette, ça vient de la rue de la Roquette. Au début, je l'écrivais R-O-Q-U-E-D-T-E, comme la rue de la Roquette. J'étais fier de dire, mais non, c'est la rue de la Roquette et je veux pas l'écrire à l'américaine. Et puis finalement, je l'écris Roquette R-O-K-E-D-T-E, juste pour mettre un K à la place du Q. Donc on a toujours mis des K partout, les techs, je sais pas quoi. Donc la techno écrit avec un K, c'est juste représentatif de la mode de mettre des K partout dans le monde de la free party et du hardcore.
Et alors, dans le monde de la free party, justement, tu parles de hardcore, c'est quoi? C'est la techno hardcore qui est une esthétique spécifique?
Ouais, complètement. Chaque catégorie de techno a son public avec une esthétique propre.
Ok. Tu peux nous en citer les grandes familles, entre guillemets, si je puis dire. Ouais.
Ouais, bah on a la house.
Ouais.
On a la tribe. La tribe, une techno très répétitive, un peu tripante qu'on retrouvait beaucoup en free party. La hard tech. Hard techno, c'est une techno plus rapide, plus violente, mais qui n'est pas du hardcore. On pourrait dire que ce qu'on a écouté tout à l'heure, le Wario, on est déjà dans du hardcore. C'est du hardcore assez lent, mais c'est quand même un gros kick hardcore.
Assez lent, parce que là, on était quoi, à 140 BPM quand même.
150.
Ouais, ok.
Mais voilà, le hardcore, c'est plutôt à partir de 160, 170, 180 BPM. Là, là on est dans du hardcore.
Ok.
Si ce track là, Wario, un vrai hardcore, il va me dire, mais non, ça c'est de la techno.
C'est mainstream.
C'est un slow le truc.
Il y a la trance.
Ouais.
La trance très tripant avec vraiment une imagerie hyper forte, tout fluo, tout très indien, très goa, l'imagerie de la trance.
La psy-trance aussi, déjà à l'époque.
Pareil, le transcore, un mélange entre la techno et la trance. Il y en a plein comme ça, du break, le breakbeat. Bon, breakbeat.
Ça, on connaît déjà un peu plus.
Ouais. Dubstep.
Et moi, j'entendais un terme et je l'utilise quand je suis en train justement de déconner sur ce genre de style musical, genre le trans-machina ou les trucs comme ça.
Ah, la machina.
Ah, la machina, ouais. Machina et Gabber, peut-être.
Le Gabber. Qui est très revenu ces dernières années, le Gabber.
Ouais. Le Gabber, c'est genre le truc des gopniks russes, là.
Alors, je sais pas ce que c'est.
C'est les mecs en survêt, là, les Russes en survêt Adidas. Là,
alors, c'est plus les Néerlandais, la Belgique, le Gabon, ouais, etc. Plus que les Russes, mais l'esthétique.
C'est en survêt Adidas.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, d'accord.
L'esthétique,
attends,
c'est ça.
Moi, j'étais accroupi, fan là, de Gabon quand j'étais gamin. Okay. J'écoutais vraiment beaucoup de Gabon. J'allais à Techno Import, je m'achetais des vinyles de Gabon. Je mixais Gabon. Et je mixais Gabon dans des frits. Ouais. Et les gens, ils kiffaient. Wow, du gros hardcore et tout. Et ça ressemblait à de la Maquina. Donc, la Maquina, c'est espagnol. C'est de la techno rapide. Avec des mélodies cucu, genre ta 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 bom 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 ta 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 ta.
C'est pour ça que ça a été un peu plus mainstream. Il y avait genre des compiles Maquina et tout, il y a la télé, les trucs
Maquina Volume 10, tu vois.
Et le Gabber, un jour j'ai fait maman, si tu m'écoutes,
vas-y, raconte.
Je sais pas si je peux la faire, ça. J'ai dit à ma mère que j'allais en voyage scolaire.
Ah ouais.
Et je suis pas, ouais, ça allait loin. Il fait signer des papiers et tout. Et je suis parti en Hollande pour aller à une Teuf Gabber, ce qui était mon rêve avec un pote à moi. Mais nous, on était dans une imagerie, on avait des styles de friparteux. Friparteux, c'était, tête rasée, truc de surplus militaire, ouais. Vraiment, sweat à capuche noire ou kaki. Voilà, friparty. Ouais. Et je me suis pointé à une Teuf Gabber à Rotterdam. Le choc. J'étais dégoûté. La moitié, c'était des nazis, des néo-nazis, des fachos.
Ah ouais.
L'autre moitié, c'était des militants anti-nazis. Et donc, ça puait l'embrouille, ça puait la baston. Il y avait des drapeaux israéliens et des fachos qui faisaient des signes fachos. Mais en même temps, c'était fou. Ils dansaient tous cette danse Gabber que je connaissais pas encore. Alors que j'étais.
T'écoutais la musique.
Ouais, j'écoutais la musique, mais il n'y avait pas YouTube, rien. Ouais. Donc, je savais pas ce que ça représentait vraiment. Je suis revenu en me disant, bon.
On peut parler de la danse Gabber, justement, c'est quoi le mouvement
c'est des pas avec les jambes, on jette une jambe en avant, puis l'autre jambe en avant, puis l'autre jambe en avant. Et à l'époque, ils étaient tous en Air Max. La Air Max, c'était le truc des mecs de Gabber. Survêt un peu satiné Adidas.
Ouais.
Air Max, Bombers. Les filles, les cheveux tirés en arrière, queue de cheval, hyper tirés en arrière, tu vois, pas un cheveu qui dépasse.
Ouais.
Et les mecs, tête rasée. Et ça danse comme ça en rang.
Non, c'est presque de la line dance country.
Et nous, on est là et tout le monde nous regarde de travers parce qu'on a l'air de vieux punk à chien dégueulasse alors qu'on est des toughers et que c'est notre monde et que habituellement on est chez nous, tu vois.
Ouais,
salut, les gens, ils sont pas du tout, salut.
C'est marrant quand même de. Même dans des. Tu sais, dans des cercles en fait qui seraient théoriquement plus. Ouvert parce que moins de règles, moins de stéréotypes, moins de machin. En fait, on se retrouve quand
ça
même.
Ça peut être codifié aussi.
Tu peux quand même te faire, te faire rejeter, en fait.
C'est un sujet hyper intéressant sur les frites. Là, la teuf à Rotterdam, c'était une caricature de teuf Gabber organisée, payante, légale. Ils avaient leur univers, leur style. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'extrême droite dans les teuf Gabber, mascu, etc. C'est un mélange, mais c'est fortement représenté, la population d'extrême droite dans les teuf Gabber. Ça, je le savais pas, maintenant je le sais. Je sais aussi qu'il y a toute une frange de la Gabber qui milite contre ça, ce qui me rassure, parce que j'aimais bien ce style à l'époque. Mais parlons des fris et du style vestimentaire dans les fris. On a vu ça. Le Summer of Love, si tu regardes les images, tout le monde est très coloré, il y a vraiment beaucoup de couleurs.
Bah, c'est Ecstasy, LSD, acide, enfin, c'est un truc, pop, tu vois.
Années 80, tu vois l'imagerie des années 80, vraiment très colorful.
Tu parlais du t-shirt, c'est jaune avec le smiley et tout, bon, typique, quoi.
Et tu regardes, tu prends une photo des gens en teuf en 2000, tout le monde est en kaki et tout le monde est habillé pareil, mais vraiment, c'est fou. T-shirt noir avec un truc tribal blanc, un sound system en général écrit sur le t-shirt, une uniformisation dingue et beaucoup de jugement sur les personnes qui sont pas dans cette uniformisation. Justement. Alors que le début des free, au contraire, il y avait machin en costume, comme je te racontais tout à l'heure, papy qui vient en costard, qui sort, qui vient se détendre. Et ça, on a.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est quoi le.
J'ai peur de dire des trucs horribles, mais on est rentré dans la nature humaine, l'effet de mode.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il y a un truc qu'on peut dire, c'est que, alors je sais pas spécifiquement pour l'uniformisation dans le cadre de la teuf et tout, par contre sur la couleur, il y a beaucoup de gens qui estiment que d'un point de vue esthétique, on est une société qui a perdu, enfin je parle en France par exemple, on a perdu la couleur.
Mais tu regardes les petits.
Dans les canons esthétiques, on n'a plus envie de mettre beaucoup de couleurs, on le retrouve aussi dans le cinéma, dans toute notre production culturelle, artistique, visuelle, etc. Globalement, on y va hyper mollo sur la couleur par rapport à beaucoup d'époques.
Bah, sur nous deux, on est bien là-dedans. Enfin, toi, t'as quand même un.
Ouais,
un
tu vois, j'ai juste voulu du truc un petit.
Toi, t'es bon.
Moi, je suis bon. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un truc même qu'on constate. Enfin, tu vois, le, genre, tu vas dans la rue, les voitures sont toutes blanches ou noires ou grises. Hein, alors qu'à l'époque, il y avait des voitures vertes, jaunes, rouges. Là, c'est rare. Hein, une voiture rouge, les gens se retournent. Waouh ! Et les petits, c'est impressionnant. Mais moi, je vois les petits collège, lycée. Ils sont tous avec la doudoune noire, le survêt noir, les Air Max noirs ou Air Force noirs. Tout est effectivement décoloré, quoi. Je sais pas. Mais le. Parce que moi, c'était un truc qui m'intriguait aussi. Je me disais, mais pourquoi ils s'habillent en militaire, ces mecs-là ? Quand je voyais justement les toughers, je me disais, est-ce que c'est un truc qui est lié à un aspect pratique ? Parce que tu vas te retrouver dans un endroit qui n'est pas fait pour accueillir du public. Ça se trouve, il va y avoir de la pluie. Du coup, ça va être le bordel. Parce que ça, j'imagine que c'était un truc aussi. La boue, les machins.
Je ne sais pas la cote-part de l'aspect pratique, mais c'est surtout la mode.
Ah, c'est vraiment
ça. On était dans des codes d'appartenance à un clan, le clan des friparteux.
Ouais.
On se reconnaît entre nous comme ça. On est dans un aspect qui est facilement identifié, identifiable, qui va bien avec les punks. Qui s'habillent aussi beaucoup en militaire, ouais, en treillis. Les punks, ils sont plus funk quand même. Hein. Ils ont des crêtes, ils ont des cuirs, ils ont des clous. Nous, on n'a pas tout ça. Nous, on est vraiment dans un lissage kaki et.
Marron, kaki.
Il y a peut-être un côté. C'est vrai que nous, on va faire des fêtes dans la gadoue, dans les bois. Donc, il y a peut-être un côté pratique. Mais très vite, ça a tourné à une mode. Je ne sais pas si au départ, ça vient d'un truc pratique. Je ne pense pas, honnêtement. Et ça, j'ai vraiment déploré. D'où mon envie de faire du show, du spectacle, de la déco, de faire de hérétique un vecteur de jovialité, de bien-être. Je me souviens, la teuf de 15 000, on a fait une teuf, on s'attendait à être 6 000, on a été 15 000, on a été complètement débordés. J'ai quand même réussi à faire un live au petit matin. Et on avait prévu j'avais fait un live disco. Donc j'avais fait un live avec toute une série de samples de disco repris et rejoués avec de la techno par-dessus.
Ouais.
C'était fait exprès, c'était optimal. Et on jetait des déguisements aux gens. Oh, la respiration, bouffée d'air frais, la couleur, des gens avec des masques, des gens. Et après, on a essayé avec Hérétique de continuer dans cette vibe-là et de sortir de ce côté dark,
monochrome,
vert foncé, monochrome, exactement.
Ouais. Ouais.
Et donc on a créé une entité hérétique qui s'appelle Grand Magic Techno Circus, et on est parti dans un délire circassien, performance, cabaret, exactement, et on a fait pas mal de teufs comme ça dans cette vibe.
Est-ce qui colle bien aussi avec, parce que ça a déjà été mélangé avec l'esthétique un peu freak aussi, tu sais, un peu étrange, etc., et qu'on peut mettre aussi en avant dans les free parties.
Complètement. Bah, la dernière teuf qu'on a fait là, il y a deux semaines, ça s'appelait Freak Show. On est peut-être parti pour aller sur la tournée des 30 ans sur une thématique de freak show. Ça colle bien à Hérétique. En plus, nous, on est un peu tous des gens particuliers, chacun dans son délire. Et le freak show, je trouve que c'est bien, ça nous représente bien. Ouais. C'est pas trop.
Mais du coup, quand vous essayez de péter cet aspect monochrome du milieu, les gens qui sont dans ce milieu, justement, les auditeurs, ils le reçoivent bien, ça ? Ou ils se disent, wow, qu'est-ce qui se passe ?
Non, ils reçoivent bien. On a été très suivis. Mais on a aussi bénéficié d'un truc étonnant. Quand on est arrivé au Zénith, à l'Olympia, dans des choses très institutionnelles, contre toute attente, on pensait qu'on allait se faire flinguer par notre milieu underground très résistant, militant. Ce qui s'est passé, c'est que c'était au contraire. On a réussi à monter l'underground jusque dans le Zénith et l'Olympia, et tout le monde a pris ça comme nous, c'est-à-dire comme une chance et un succès pour des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de licence de spectacle, qui ont gravi les échelons de la teuf en ayant des faits d'armes autogérés, tout en autoprod, avec aucun producteur, aucun média, aucune com, rien. Et finalement, on met les places du Zénith en vente, c'est complet au bout d'une semaine. Du coup, on part avec un Zénith full, donc on a un budget de Zénith full, et ça a été super bien perçu.
Ouais, parce que vous étiez là depuis le début.
Ouais, peut-être.
En fait, je pense que si vous aviez défriché le truc dans des pâtures, des hangars abandonnés, des machins comme ça, et qu'après quelqu'un arrive et lui prend un Zénith, mais en fait, profite en fait du travail que vous avez investi pour faire connaître et prendre l'essor de ce milieu-là, je pense que là, ça aurait été mal perçu et pris comme une récupération. Mais puisque c'était vous, les OG, bon bah...
On est quand même perçu comme récupéré. Hein.
Ah ouais.
Vendu.
Je sais pas s'il y a pas. Il y a un genre d'exception hérétique. Ouais. La personne qui nous fait tous les shows, avec qui on travaille le plus, c'est Juliette Dragon. Elle est très reconnue dans son milieu du burlesque, du cabaret, de la performance, de la performance pyrotechnique. Elle utilise beaucoup son corps, le corps des gens, pour faire des perfs. Et elle nous a accompagnés sur toute la dernière partie du groupe pour nous aider à faire la DA et les shows. Et ça donne aussi un crédit un peu... on n'a pas pris on n'a pas pris n'importe quel performeur. Mmh. On a pris des gens du monde du burlesque. Juliette, elle a une vraie vision. C'est un peu... créativement parlant, on est resté engagé dans quelque chose malgré tout. Mmh. C'est pas les gogos que je pourrais prendre pour une soirée dans un club à Ibiza, c'est pas du tout ce genre-là. C'est plus en adéquation avec quand même le monde de la free, le monde alternatif. C'est du burlesque non genré. On essaye quand même de faire passer un message malgré tout, tout en étant, en ayant pris le tournant légaliste, on garde quand même un message de non-conformité.
Mais ça, parlons-en, parce que tu parles de non-genre, tu parles de femmes aussi. On voit quand même dans le documentaire, on voit pas énormément de meufs, pour être honnête. Est-ce que, alors vous, maintenant que vous êtes un peu plus institutionnalisé, vous portez peut-être d'autres thématiques, y compris celles du genre, etc. Mais à l'époque, vraiment, de la free party, c'est un endroit safe pour les meufs? Il y a beaucoup de meufs? Il y a un peu la place pour les meufs?
C'est un endroit très masculin, ouais. Encore aujourd'hui. À l'époque de notre création, la question se posait même pas. On est une bande de potes, on a créé le truc, il n'y a même pas eu de... On ne s'est même pas demandé pourquoi il n'y avait pas de filles. On ne s'est pas dit qu'on ne voulait pas de filles.
Mais il y avait quand même deux, trois explications.
C'est un peu boys club quand même.
Porte-maillot à 2h du bar et tout. Ouais, ok.
Non, en free, il y a plein de filles. Et d'ailleurs, nous, dans nos free, beaucoup de filles aident. Et on est... tu vois, la free, c'est peut-être un truc un peu à part, mais ça reste quand même inséré dans la société dans laquelle elle est. C'est-à-dire que malgré les valeurs qu'on essaye de véhiculer, on est nous-mêmes victimes inconscientes de la société dans laquelle on est. Mmh. Et à notre époque, l'invisibilisation des filles pour ce qu'elles font, c'était super fort. Mmh. Et à tel point que pour te dire que malgré toutes les valeurs éthiques qu'on essayait de véhiculer, on a quand même invisibilisé toutes les meufs qui ont travaillé avec nous. alors qu'elles étaient là.
Elles étaient là, ouais.
Aujourd'hui, on se les pose ces questions. Aujourd'hui, dans le docu, on a mis toutes les meufs dans le générique. On essaye aujourd'hui
de réparer. Ouais, mais...
Moi, je cherche même pas à réparer parce que.
Mais reconnaître en fait que.
Ouais. En tout cas, mettre en valeur les filles qui ont une fonction, une utilité et qui ont fait de Hérétique ce que c'est aujourd'hui. Et il y en a plein. Mm. Et c'est vrai que si tu regardes les membres officiels du groupe, il n'y a que des mecs. Et c'est pas du tout représentatif de ce qui s'est passé dans le groupe. Quand bien même la population des sound systems est très masculine, ça reste un groupe qui a été énormément aidé par des filles. Mmh. Énormément, énormément, énormément. On a eu vraiment toute la partie étendue du groupe qui nous aide, qui était composée de plein de meufs.
Et ça, c'est du côté organisation, du côté tougher, par contre, il y a une forme de parité quasiment ou...
Alors, je ne sais pas s'il y a une parité, mais il y a plein de meufs en tough, en free. Ça, c'est sûr. Et, par contre, toujours pareil, les DJ, tu vas voir une ou deux meufs par soir et le reste, c'est des mecs. Et de plus en plus, on a évoqué ce sujet l'autre jour à une table ronde sur la free party avec les acteurs de la free party d'aujourd'hui. Et il y a des sound systems de meufs, il y a des sound systems qui font exprès de mettre en place une parité. Il y a de plus en plus de DJ nana dans les free, et d'ailleurs dans la techno en général, de manière globale, il y a de plus en plus de filles qui jouent, et ça c'est bien, c'est vraiment chouette. Moi je le vois sur tous les festivals où je bosse aujourd'hui, sur les line-up, le nombre de filles DJ qu'il y a aujourd'hui, ça explose, et ça c'est super. Mais c'est vrai que nous, on ne s'est jamais posé cette question avant.
Justement, c'est ça que je trouve intéressant. À chaque fois que tu parles d'hérétique, donc tu dis nous, et donc c'est le collectif, et on a l'impression vraiment qu'il n'y avait, pas de désaccord. C'est tout le monde. Tu vois ?
Ouais, c'est fou ça. C'est l'impression que ça donne.
Parce qu'il y en avait beaucoup.
Bah ouais, mais en fait, quand on parle comme ça, on a l'impression que tout le monde arrive à un genre de concorde en mode ouais, ok, on va mettre de la couleur, ok, let's go.
Vu comme il rigole, je crois que c'est pas tout à fait comme ça.
Ouais, en fait,
en tant que
porte-parole,
du coup. j'ai été mandaté pour vous faire vivre, pour faire passer certaines informations fausses. Non, on est un groupe, on s'engueule tout le temps, on n'est jamais d'accord sur rien.
D'accord. C'est rassurant. Okay.
Par contre, ça fait 30 ans que le groupe existe et il y a des époques avec des personnes. Léo, qui est un personnage très fort dans le documentaire de Damien, Léo a été à l'origine de beaucoup de choses, avant que sa folie se déclare vraiment. Et c'était lui le leader qui incarnait le mieux la ligne directrice du groupe et qui insufflait l'énergie à tout le monde.
Notamment d'un point de vue quasi politique, de revendication, du côté la liberté c'est quelque chose, on veut faire la teuf librement.
Ouais. Lui il arrivait à donner la dimension politique du truc avec KRS. Et ensuite, il y a eu une époque avec plus Benjamin, qu'on voit dans le documentaire, qui est l'époque... Alors moi, j'étais associé avec Benjamin directement. Donc la fameuse époque où on a essayé de faire Grand Magic Techno Circus, de redonner de la couleur. Il y a eu une époque ensuite derrière avec plus Popoff et Noot, qui ont repris le truc là les 10 dernières années. Là, maintenant, c'est un petit peu moi qui m'occupe de reprendre le truc. Mais à chaque fois... ça donne lieu à des débats, mais il y a toujours quelqu'un qui reprend le truc et qui réinsuffle de l'énergie. Et il a bien fallu ça, parce qu'il y a eu des moments où, après les drames qu'on a vécu, c'est pas facile de redémarrer, de repartir. Il y a toujours quelqu'un qui s'est retroussé les manches et qui y allait. Et donc, les époques, elles ont été incarnées par divers caractères, pas toujours d'accord les uns avec les autres, d'une époque à l'autre. Mais globalement, à la fin, tout le monde est content. À l'Olympia, c'est hyper ambivalent comme truc. On va à l'Olympia, on est à fond dans la société. C'est les sièges en velours. Mais nous, on est trop content d'aller à l'Olympia. On se dit, c'est génial pour nous. On va trasher l'Olympia.
C'est ce qu'on peut faire, Christophe. On s'écoute un morceau. T'as cité... Alors, pourquoi pas lui, je sais pas, mais t'as cité Popoff, qui est certainement l'un des membres hérétiques qui a connu un succès discographique parmi les plus importants, en tout cas. Tu me dis si je dis une bêtise.
C'est sûr. Hein. Je pense que c'est avéré.
Ouais. Peut-être qu'on peut s'écouter, je sais pas si t'as un morceau de Popoff que t'apprécies particulièrement, qu'on pourrait s'écouter.
Ouais, Serenity.
Serenity. Et puis comme ça, après on reprend sur, et on fait une dernière partie sur l'institutionnalisation, in and off, et ton travail d'aujourd'hui. On fait comme ça ? Et on s'écoute ça tout de suite.
En boucle, là, quand je bosse, quand je dois être concentré, je me mets
ouais,
Serenity.
Cool, ouais.
Si tu savais, Alex, si tu m'entends, j'adore ton track
Serenity. En plus, c'est un super exemple parce que on dit, en gros, on l'a pas dit clairement, mais Molitor 2001, c'est votre dernière free party. Ensuite, vous allez faire plein d'autres événements, etc. Mais vraiment, le côté pas déclaré, c'est la dernière. Vous allez monter une boîte in-off. Qui au début va être plusieurs membres d'Hérétique. Il va y avoir aussi label, si je ne dis pas de bêtises, production de disques avec Inoff. Et en fait, c'est intéressant, on le voit avec Popoff, c'est qu'il y a aussi une diversification, y compris des esthétiques musicales. Chacun trace aussi un peu son chemin en tant qu'artiste.
C'est presque French Touch.
Mais en tout cas, il y a plus, je pense, été marqué par le côté minimal, etc. À un moment, Popoff.
Alors, Popoff, il est complètement parti dans la minimale.
Ouais.
Il a enlevé son étiquette Hérétique pour pas altérer l'image, pour pas se retrouver avec une image de hardcore ou de free party. Et il est parti dans la minimale.
C'était pour son image à lui. Je pensais qu'il l'avait enlevé pour pas teinter l'image d'Hérétique à faire des trucs
moins.
Il réfléchit en artiste, quoi.
Lui, il a fait une très belle carrière, il a fait vraiment une carrière incroyable. Il s'est retrouvé. Il a fait une super carrière, vraiment. Et la minimale, ça a été le moment où il a eu son pic de notoriété.
Mmh. Il faut dire que c'était aussi la musique électronique hein, du moment, à une époque, quoi, autour de 2010, un truc comme ça, à peu près.
Il faut dire qu'il est bon. Hein. Je sais pas, enfin, après, moi, je vois, moi qui suis vraiment fan de techno, Alex Popov, donc, il est vraiment bon. Et la minimale qu'il a fait, ouais, c'est pas volé, la carrière qu'il a eue.
Tu considérais que vous étiez globalement des bons producteurs, il y avait des bons icos, des bons artistes dans la clique hérétique?
On est des artistes amateurs à la base, tous. Pour te dire, moi j'ai toujours voulu être musicien. Alors je ramène le truc un peu à moi là, mais parce que j'aime bien cette anecdote. Et je complexais, j'ai pas fait de solfège, j'écoutais beaucoup de hard rock, de métal avant d'écouter de la techno. J'écoutais du punk, du hard rock, du métal, et mon rêve, ça aurait été de faire un solo de guitare. Et je me tripais sur des solos en live d'Angus Young, de l'époque d'avant. Je me tripais vraiment sur de la guitare. Et j'y arrivais pas. Je me suis acheté une guitare. J'avais pas fait de solfège. Je savais pas quoi faire. Et j'avais un Atari 520 ST, un vieil ordinateur. Et un jour, je suis chez un mec qui me montre qu'il fait de la techno, qui fait un morceau de musique avec un logiciel qui s'appelle Fast Tracker. Ça vous parle, ça?
Non, mais je vois bien les trackers avec le thé où ça descend.
C'est un tableau Excel. Un tableau Excel avec plein de cases comme ça, et t'as une ligne qui passe tout le temps à la même vitesse.
Qui joue les notes.
Et voilà, et chaque case correspond à un sample. Ouais. Donc, en gros, je sample un kick, je le mets là, il va arriver tous les 4 temps.
C'est une forme de séquenceur, le tracker.
C'est complètement un séquenceur, mais avec... Alors là où le séquenceur était compliqué à aborder, les séquenceurs, ils avaient des petits écrans comme ça à l'époque, il fallait aller dans toutes les fonctionnalités. Déjà, rien que ça, ça me paraissait une montagne à appréhender. Et là, j'avais tout sur ma page. En un clin d'œil, j'ai compris comment marchait le logiciel. J'ai tout de suite compris, je me suis dit, mais putain, en fait, je peux en faire de ça, ça y est. C'est sûr, il me faut ça. Et j'ai pris ce logiciel, Fast Tracker. Et pendant des années, j'ai fait des tracks sur Fast Tracker, alors que tout le monde était déjà passé à FL Studio, à plein d'autres trucs. Moi, je continuais Fast Tracker. Ça donnait un son, ça avait une sonorité, le truc. Il y avait quelque chose qui se dégageait du logiciel. Et ça, c'est ça qui caractérise nos débuts. La facilité d'accès à la musique pour des gens qui n'ont pas eu d'éducation, de solfège, de conservatoire, de... On arrive à comprendre, on lit le mode d'emploi, on bidouille dans les trucs, et finalement on arrive à pondre quelque chose en amateur qui est écoutable et qui est appréciable à écouter.
C'est en fait, je pense que c'est un peu le point commun avec toutes les personnes qui sont lancées dans la musique électronique. C'est beaucoup d'autodidactes, beaucoup d'accès à des machines qui permettent de simplifier le processus musical. C'est... Ouais.
Le home studio,
on
change la donne, quoi.
Là, on parlait de Fast Tracker sur Atari, mais par exemple, la Game Boy était un tracker. Enfin, on pouvait justement la hacker pour...
Il y a des gens qui l'ont détourné. Hein.
Ouais, pour en faire un tracker. Donc, c'est marrant parce que comme tu parlais de... En fait, quand t'as parlé de Wario au début, que t'as fait en samplant ta Game Boy, je pensais justement qu'on allait aussi arriver sur les trackers ou le genre de Pocket Operator ou ce genre de trucs, quoi. Et... Tu t'en es pas servi, toi, de...
Non, pas sur Game Boy. Ouais. Non, pas du tout. Je restais Atari.
Parce qu'il y a des gens qui exploitent effectivement le chipset audio, la puce audio de la Game Boy pour faire du son.
C'est vrai que c'est plus teinté jeux vidéo aussi.
Souvent, c'est le côté musique 8 bits et tout.
Ouais, c'est ça.
Effectivement. Et je disais, donc, tu l'as déjà évoqué, donc je la résume, puis après, comme ça, on passe à la suite. Il y a ce côté Molitor, dernière free party, institutionnalisation, c'est-à-dire que là, on vous propose de faire un Zénith parce que vous vous connectez avec le propriétaire du Zénith qui bosse pour le Printemps de Bourges, je dis pas de bêtises, enfin, il y a un truc comme ça. Vous faites une grande teuf là-bas, et après, il y a la possibilité de faire une grande teuf à l'Olympia aussi, tu l'as déjà cité. Et puis, en fait, ça donne le hérétique d'aujourd'hui, où c'est des grandes fêtes déclarées, plus ou moins. Alors là, c'est les 30 ans, donc c'est particulier. Je sais pas s'il y a un peu des hauts, des bas en termes d'activité, tu vois, de fréquence d'événements et tout.
Les 10 dernières années, on a principalement organisé des soirées dans des lieux faits pour, sur des jauges plutôt dans les 2 à 3 000 personnes, et répondu à des demandes de booking par des promoteurs tiers qui veulent booker des gens, des hérétiques pour leur soirée. Donc là, c'est plutôt les artistes individuellement qui sont bookés, donc ils vont appeler Popov, Nout, moi, peu importe, et booker l'artiste. et mettre un petit logo hérétique sur le flyer, mais ça va pas être une vraie teuf hérétique. Mmh. Des vrais teufs hérétiques, comme on en faisait à l'Olympia ou au Zénith, c'est ça qu'on compte reprendre pour la tournée des 30 ans.
Okay. C'est-à-dire là, tout le collectif complet
Alors, peut-être pas tout le collectif complet qui joue, mais tout le collectif complet qui est présent, qui est mobilisé, qui participe derrière une soirée avec un fort concept, dans un lieu, si possible, soit un lieu, une jauge entre 5 et 10 000 plutôt, et dans la mesure du possible, des lieux qui ont de la gueule. C'est ça qui nous intéresse, nous. Voilà, l'idée, c'est de repartir sur Hérétique en tant qu'organisateur de teuf plutôt qu'en tant qu'une série d'artistes qui jouent les uns derrière les autres.
Mais du coup, ça serait toujours en région Paris et région parisienne ou tout le territoire?
D'abord, tournée française, tout le territoire. Okay. On est beaucoup écouté ailleurs qu'en Île-de-France. On a beaucoup de succès dans toute la France. L'Europe, pourquoi pas? Là, on est en train de parler avec des Allemands pour faire une soirée en Allemagne et eux, ils feraient une soirée avec nous, on discute. Mais déjà, dans un premier temps, quelques bonnes dates bien senties dans des lieux sympas en France pour les 30 ans, 2027. C'est ce qu'on est en train de préparer là.
Donc, alors, j'ai pas envie que de potentiellement, éventuellement, que les renseignements généraux te retombent dessus, mais un lieu qui pour toi serait incroyable, tu vois, un truc. Un lieu pour faire.
De toute façon, c'est plus un free party, donc il peut.
Oui, non, mais je veux dire, tu vois.
J'adorerais faire une teuf dans un beau château abandonné.
Ah!
Tu vois, un urbex, mais qui a de la gueule d'époque.
Ok.
Ça me plairait. Après, faut parler. Là, je veux pas faire le porte-parole du groupe, mais on est en recherche active de lieux de tout type, sachant qu'on aimerait bien quand même le mettre aux normes avant d'attaquer. Donc, il faut pas non plus que ce soit trop.
Trop vétuste.
Trop dangereux, quoi. Mais ouais, on.
Mais un lieu vraiment, enfin, parce que tu sais, on a entendu parler de le RER A à la Défense qui est sous la dalle.
Ok.
Le volume qu'il y a, en fait, ils se disaient qu'ils avaient exactement le même volume en dessous parce qu'ils avaient déjà prévu dès la construction de faire venir une autre ligne de train.
Ok.
Et donc t'as un espace qui est colossal, vide.
Ce genre de lieu, c'est très bien.
En plus, ça.
On peut en parler après.
Ouais. Ok, on va discuter.
Il y a ce truc passionnant de. Je le disais en introduction, vous montez une structure in-off, au début pour Hérétique de manière générale. Petit à petit, c'est toi vraiment qui prends les rênes. Et avec, tu le disais, ton activité de décor, ce que tu as toujours adoré, ce que tu as toujours fait. Vraiment, tu te professionnalises là-dedans avec in-off. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, tu as appris un métier avec Hérétique, en faisant des teufs et tout. Tu as appris ce métier qu'aujourd'hui, tu mets vraiment à profit avec une boîte qui marche bien, pour plein de marques, je le disais. Peut-être qu'on peut se concentrer sur le côté Ibiza, parce que je le trouve absolument fascinant, ce côté-là.
Ibiza, c'est.
Comment tu te retrouves à bosser à Ibiza?
C'est mon pote Romain Pisnem, avec qui on travaillait déjà sur des teufs, sur des frits, et qui s'occupait de gérer nos shows sur scène. Il y avait lui et Juliette Dragon. Je vous ai parlé de Juliette Dragon tout à l'heure. Il y avait aussi Romain, qu'on pouvait solliciter pour faire des shows, qui était quelqu'un qui travaillait à la fois en tant que metteur en scène de théâtre, comédien. C'était quelqu'un qui était dans le monde du théâtre national et qui avait tout un tas une panoplie de gens, comédiens, artistes, performeurs, qui pouvaient nous mettre à disposition et lui s'occuper d'organiser les choses pour nous. Un jour, donc on travaille avec Romain régulièrement, Romain travaille avec moi depuis quelques années, et un jour, son grand frère, reprend un resort à Ibiza, un resort, donc des bâtiments autour d'une piscine au bord de la mer.
C'était un hôtel, un resort, c'est ça là-bas?
C'était un hôtel, ouais, un hôtel.
Un hôtel genre pension complète.
All inclusive, tu vois, avec des Allemands. Les Baléares à l'époque. Ibiza, le ticket moyen, je sais pas combien c'était, mais ça devait être 50 à 100 balles la chambre. C'était vraiment un resort pour. Classe moyenne, comme il peut y avoir un peu partout dans les Baléares. Ibiza, c'était pas encore jet set comme aujourd'hui à cette époque. Lui, il reprend ce resort et il a un projet de construire une grande scène dans le resort au bord de la piscine et de faire des espèces de giga pool party, mais avec une capacité de 5-6 000 personnes à l'époque. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on met 10 000 personnes dans l'Ushuaïa. C'est devenu l'Ushuaïa. Et là, il l'a fait, il a créé l'Ushuaïa.
Ouais.
Et on est passé de la première année, on devait faire 2-3 000 personnes par événement deux fois par semaine.
Ouais.
La deuxième année, pareil, mais trois fois par semaine. Et la troisième année, ça a explosé. Tout le monde voulait y jouer. Et on s'est retrouvé avec tous les gros, les Guetta et compagnie. Et aujourd'hui, l'Ushuaïa, c'est un des plus gros clubs du monde. C'est, le concept, c'est toujours un hôtel. Donc, on a les chambres avec autour, balcon là, qui donnent sur la piscine et qui font un petit peu comme des
loges,
comme des balcons d'opéra, tu vois. Ouais. T'as ta chambre et puis tu peux être en bas et la jauge totale c'est autour de 10 000, je connais pas les chiffres exacts mais bon, on sait que on est à peu près dans les 10 000 personnes et c'est devenu énorme et aujourd'hui on fait des scénographies dantesques là-dedans.
Et ces 10 000, il y a toujours la piscine, il y a des gens dedans?
Il y a toujours la piscine. Avec les années, on a un peu réduit la taille de la piscine, mais les gens peuvent se baigner la journée dans la piscine. La nuit, elle est pas baignable, on la protège.
Ah oui, d'accord.
Elle est hyper surveillée pour que personne tombe dedans, etc. D'ailleurs, la plupart du temps, on met des décos dans la piscine. Okay. Là, cette année, on a des très belles décos à venir dans la piscine.
Justement, parce que tu bosses pour le Ushuaïa, pour le High, parce que c'est le même groupe derrière, en fait, c'est les mêmes gens derrière.
Le High, qui était le Space, je sais pas si vous...
Non.
Non, le Space, boîte légendaire portée par Carl Cox. Je me demande si c'est pas des années 80, carrément. En tout cas, 90, sûr. Donc, d'avant l'époque où nous, on a commencé à arriver dans la techno. On était encore des bébés de la techno. Le Space tournait déjà plein régime à Ibiza. Il s'avère que l'Ushuaïa, c'est juste en face du Space. Il y a vraiment une rue à traverser tout droit, littéralement, hein, je ne caricature pas, tu traverses la rue, t'es au Space. Au bout de quelques années, les patrons de l'Ushuaïa ont racheté le Space et en ont fait le High, en modernisant tout, ils ont tout refait, ils ont tout changé, tout refait, et je me suis retrouvé à gérer la déco pour le High, en plus de la déco pour l'Ushuaïa.
Alors,
c'est quoi l'intérêt pour des gens d'avoir deux hôtels qui se font face et qui...
C'est pas un hôtel, le Space. Le High, c'est pas un hôtel, c'est juste une discothèque. Donc, l'Ushuaïa, ça ouvre pour la teuf de 17h à 23h.
Ah, ok. Et après,
et ça 23h, ça bascule.
Incroyable.
Et ce qui est génial, c'est que en termes de sécurité, le problème à Ibiza, c'est trouver un taxi. T'as des flux comme ça de 10 000 personnes qui cherchent un taxi en même. Là, ils traversent la rue. Parce que même tous les restos autour, là, à 23h, tout le monde va au resto, c'est blindé, blindé, blindé. À 1h du mat, ils vont tous au High. Et donc ça draine un public qui se fait son programme en fonction des deux teufs et pas seulement en fonction d'une teuf.
Et alors pour ces deux boîtes, la discussion avec l'univers, c'est un peu différent parce que l'univers, c'est dès la conception, t'es là. Pour le Ushuaïa, le High, qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous, prends un exemple peut-être d'un artiste. En quoi consiste ton taf?
Mon taf consiste... Alors l'artiste va avoir une idée de ce qu'il veut voir sur scène pour sa scénographie et mon taf, ça consiste à rendre ça réel dans le budget imparti. Donc on propose aux artistes des idées, parfois l'idée vient de nous. Globalement, Romain Pisnem, mon pote, le frère de... Enfin, c'est deux frères en fait, Yann et Romain, les deux frères possèdent le truc. Yann, il est dans la partie business booking et Romain, il est plus dans la partie direction artistique des deux lieux. Lui, dans la direction artistique, il a les shows, la pyrotechnie, les chorégraphies, les costumes. Et pour la partie déco, c'est moi. Donc, il va avoir des idées, Romain, plein d'idées. Lui, il va faire des designs, des dessins, des rendus 3D, et il va me filer ça, et moi, je vais rendre ça faisable.
Et ça, on le fait pour une soirée.
Sachant que les contrats sont des résidences hebdomadaires. Donc, sur une saison, on va avoir à peu près 120 dates, selon les saisons. Sur 120 dates, tous les lundis, c'est Guetta, tous les mardis, c'est Calvin Harris, tous les mercredis, c'est Tomorrowland, etc. Chaque année, ça change. Mais j'ai 7 scénographies à faire par club.
Okay.
Et moi, j'interviens sur la partie décor, quand il y a du décor. Parfois, il n'y a pas de décor. Parfois, il n'y a que des écrans. Il n'y a que du contenu vidéo. Parfois, il n'y a que du light design, que de la lumière.
Tu as bossé, par exemple, sur les soirées Anima?
J'ai bossé avec Anima, sur des soirées Anima, tout à fait.
Tu me dis si je dis une bêtise, je ne connais pas hyper bien cet univers, mais je sais que ça a été comme un gap à un moment franchi en termes d'utilisation, tu sais, d'écrans, de trucs 3D, etc. Enfin, y a un truc complètement fou, je crois, autour d'Anima.
Ouais, alors moi, je vais te dire qu'on le faisait, mais
ça l'a popularisé.
Ouais, ça l'a popularisé. C'est un truc que nous, on fait. Alors, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Ice Cream, qui est l'entreprise de Romain, le fameux Romain. C'est l'entreprise qui fait la direction artistique de tous les gros shows et des shows à la Anima, on en a fait avant Anima. C'est Anima, ils ont quand même mis la barre vachement haut avec leur contenu vidéo. Ils ont eu des super bonnes idées, des idées d'intégration de contenu dans des dispositifs hyper bluffants, où genre t'hallucines, en plus ultra instagrammable, ou même déjà en vrai c'est ouf. Mais alors sur Insta, tu fais putain, faut que j'y sois quoi, c'est pas bon. Ils ont été très très forts. Et nous, on les a eus là, l'année dernière, à Universe. donc le Universe, la nouvelle discothèque qu'on a ouvert l'année dernière à Ibiza, et ils sont arrivés avec un dispositif scénique de malade, et ils sont arrivés avec un truc...
Genre ça consiste en quoi ?
C'est... Alors déjà, Universe, il y a 15 mètres sous plafond, et derrière le DJ, il y a des immenses fenêtres sur 15 mètres de haut qui donnent sur un paysage d'Ibiza. On laisse les... Il y a des stores qui sont fermés toute la nuit et au petit matin, selon la volonté du DJ ou pas, on ouvre ces stores pour le lever de soleil. T'as le soleil qui se lève à cet endroit-là. Anima, ils ont fait un contenu vidéo. Donc, on a des écrans vidéo transparents devant les fenêtres. Donc, quand les fenêtres s'ouvrent, il reste une espèce de trame que tu peux voir. C'est des écrans, c'est des pixels, en fait. Et quand tu mets du contenu sur ces écrans, t'as le mélange entre ce que tu vois derrière et le contenu. Et eux, ils ont fait un truc génial où t'as un robot géant qui arrive et qui tape à la fenêtre et qui fait des tas. Et ils ont repris le contenu qu'il y a derrière, ils l'ont réintégré dedans. Ce moment est génial. T'as les rideaux qui s'ouvrent et t'as leur robot qui est là.
C'est une espèce de réalité augmentée.
Ouais, c'est ça.
Ouais, une réalité augmentée du club.
C'est dingue.
Puis sinon, à l'intérieur, ouais, bah, ils mettent le paquet en prod. Hein. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Anima et je voudrais pas trop mettre la lumière sur eux parce que les autres font vraiment des trucs.
Cite d'autres trucs sur lesquels t'as bossé, par exemple.
L'année dernière, par exemple, on a fait Paradise. Ouais. Paradise, ça s'appelait Sand of Solaris. Et c'est un univers entre les pyramides d'Égypte, Dune. C'est rétro-futur, t'es là, tout est crépusculaire, rouge, on a mis des grandes arches sur scène gigantesques comme un grand temple en pierre. Il y a des immenses colonnes qui descendent du plafond, qui descendent en pierre aussi comme ça, qui montent et qui descendent. Les performeurs tombent du ciel et tout est hyper alléché. Et là, pareil, au petit matin, les rideaux s'ouvrent, t'as le lever de soleil, tout est dans des pourpres rouges et la déco est toute pourpre rouge, les contenus vidéo sont pourpres rouges, t'es dans un... Ça fait des frissons. Mais que t'aimes la techno, que t'aimes pas, que t'aimes Jamie Jones Paradise, que t'aimes ou que t'aimes pas, t'es là-bas, tu prends une claque. Mais ça marche pour ma mère, ma grand-mère. je l'ai fait venir.
C'est un spectacle, c'est dingue.
C'est complètement un spectacle. C'est du show à tous les niveaux, visuel, auditif.
Et sur cette soirée-là, par exemple, tu dis avec cette esthétique dune, etc. Donc t'as fait des décors, toi?
J'ai fait les décors. Ouais.
Comment ça se passe? T'as un atelier, tu utilises des matériaux, tu réfléchis à tes matériaux, tu fais ça en France, puis après ça doit partir à Ibiza, ou ça fait sur place? Enfin, comment ça se passe?
On essaye d'être écolo et de gagner de l'argent et du pétrole. Donc l'idée, c'est d'aller au plus écologique et au moins cher, donc d'essayer de délocaliser le plus possible en Espagne, voire à Ibiza si possible. C'est pas toujours simple, on a encore beaucoup de camions qui partent de France. J'ai des ateliers en France, à Paris, en région parisienne, j'ai des ateliers à Aubervilliers, j'ai un petit atelier aussi dans le 18e à Paris. L'immense majorité des décors qu'on produit pour Ibiza partent de nos ateliers français, sachant qu'on fait des mix avec tout un tas d'autres ateliers et on essaye de descendre le plus possible vers le sud pour essayer de limiter les temps de transport. Après, on a aussi des sous-traitants sur l'île, à Ibiza, qu'on fait beaucoup travailler, mais globalement, tout est fait dans nos ateliers à Aubervilliers.
Okay. Et tu vois, t'as bossé avec des David Guetta, des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Enfin, double question. À la fois, toi qui viens quand même de la free party, tu vois, enfin, c'est quand même tellement pas le même univers. J'ai presque envie de dire, normalement, ça marche pas ensemble.
Tu dis univers.
Bah oui, c'est vrai. Mais c'est, normalement, ça marche pas ensemble, tu vois, presque.
Un jour, Romain me dit, là, je vois où tu veux en venir. Ouais. On va faire Universe. On a repris le privilège. Le privilège, c'est ce qu'était avant Universe. Ouais. On va tout refaire.
C'est la plus grosse boîte du monde.
Exactement. T'es chaud, tu veux le faire? Attends, comment ça? Je suis chaud, je veux le faire. Bah, tu veux le faire, tu veux faire le design, t'es chaud ou pas? Parce que on est chaud pour te le filer. Oui. Et voilà. Et j'ai fait tout le design. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est vraiment littéralement passé comme ça. Un coup de fil et j'ai raccroché et c'était bon. Il n'y a pas eu de mise en compétition ou de je sais pas quoi. C'était 15 ans de collaboration avec les deux frères. Une confiance établie, éprouvée. Et je me retrouve sur des organigrammes, il y a mon nom, Christophe Samé, en haut d'organigramme. J'ai un BEP secrétariat, pour rappel. Le complexe de l'imposteur, il est maximal. Des gens qui ont le complexe de l'imposteur, c'est les meilleurs, parce que je donne tout. Forcément, vu que je me sens pas légitime, je veux être absolument parfait dans tous les domaines, partout, tout le temps. donc l'employé du mois, quoi.
Mais alors là, c'est intéressant parce que tu dis que sur les clubs précédents, tu faisais de la déco dans le cadre des soirées, machin, etc. Là, t'es carrément à la gestion de la, du design du club.
Ouais.
Mais du coup, il n'y a pas aussi des... Comment tu fais pour gérer, puisque t'as pas le background, comment tu fais pour gérer les notions de sécurité, des personnes, des machins?
On bosse avec un architecte.
Qui doit valider tes designs.
Ouais. On a un architecte et une entreprise générale. Enfin, ça, c'était une usine à gaz. Hein. Le Universe, c'est vraiment une énorme machine.
Ouais, j'imagine. Pour accueillir
deux ans de chantier. Enfin, oui, on a bossé avec une équipe gigantesque. Et la base de tout le travail, c'est le design. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de chance. Le client final, donc Yann, a toujours mis avant tout le reste le design. La seule chose qui pouvait primer sur ce que je décidais, c'était l'acoustique.
Okay.
Et sinon, tout le reste, on a essayé de tordre tout pour que ça serve le design.
C'est hyper rassurant que l'acoustique soit quand même le premier élément.
Ouais, bah, l'acoustique, c'était le seul truc où vraiment, là, je pouvais pas... Si on me changeait des trucs de dingue, genre non, ça, tu pourras pas le mettre là, mais quoi, mais c'est central dans mon design, acoustique. Allez, fin de l'histoire, je suis obligé de céder.
Et alors, t'es parti sur une DA spécifique pour Universe?
Je suis parti sur une DA, on m'a donné une DA, c'est Ice Cream, donc c'est Romain qui m'a envoyé une DA très brutaliste, avec beaucoup de plantes, un truc... Enfin, c'était évident que j'allais adorer, puisque c'est tout à fait ma patte. Et derrière, je me suis servi des moodboards de Ice Cream pour, comme inspi pour tout dérouler. Et ensuite, on a fait l'intégralité. C'est 51 zones univers différentes. Okay. Dans chaque zone, il y a une dizaine de plans. Enfin, on a fait des centaines de plans et ça a été long et laborieux. On a dû recruter des architectes.
C'est quoi qu'on appelle zone? C'est
une zone, par exemple, il y a un restaurant. C'est une zone. Il y a 7 ou 8 bars, c'est des zones. Il y a, une entrée, c'est une zone.
Il y a plusieurs clubs, entre guillemets, où il n'y a vraiment qu'une seule pièce.
Il y a 4 ambiances, 5 ambiances.
Il n'y a qu'une seule grosse salle et le reste, c'est des petits endroits à côté. Okay. Il y a une zone super secrète, dont je ne vous parlerai pas, qui est géniale.
Okay.
Géniale et dans laquelle tu ne peux pas aller si tu n'es pas au courant qu'elle existe.
Okay.
Okay.
Qui a été longue et laborieuse à designer, qui est très léchée, très luxueuse. Ça, j'adore emmener les gens là-bas.
Ouais,
ça, tu peux pas le deviner. Par exemple, on a découvert un endroit qui était pas sur les plans. D'un coup, on fait mais qu'est-ce que c'est que cette zone? Ah ben, on a qu'à en faire un stockage. Et là, le patron, il me dit non mais t'es fou, là, on va faire une zone, ça va s'appeler le bunker. Vas-y, design-moi un truc bien, genre bunker, tu vois, on a trouvé un truc bien brutal. Et hop, on a fait une zone, ça s'appelle le bunker. C'est un dance floor. Ouais, c'est un tout petit dance floor.
Avec un son spécifique ou c'est le même son qui est?
Avec un son spécifique, ouais. Des DJ, une programmation à la line-up. On a mis aussi un son dans les toilettes, ça on avait déjà fait au high. Donc les toilettes sont un dance floor.
Okay, c'est pas le son de la salle qui passe dans les toilettes.
Non, il y a un DJ.
Il y a un DJ pour les chiottes.
Il y a toutes les cabines et ouais. Au milieu, il y a un grand monolithe en pierre et à l'intérieur du monolithe en pierre, il y a un DJ qui joue pour les gens.
Pour les toilettes.
Pour les toilettes.
C'est fou.
Du coup, c'est blindé. Du coup, quand tu vas aux toilettes, en fait.
C'est une soirée dans la soirée, quoi.
Ouais. Alors, attends, c'est parce que je disais qu'il y a quand même un contraste entre toi, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Mais il y a un autre contraste, d'ailleurs j'en ai parlé avec François, que je salue, parce que ça l'intéresse, on en a discuté et tout, et lui ça le questionnait aussi, c'est que, je sais pas si tu connais bien Ibiza, vraiment le lieu, son histoire, etc., mais il y a eu quand même, tu sais, une espèce d'utopie hippie, justement, aussi à Ibiza, un truc, une forme de simplicité, si je puis dire, loin du côté ultra, des gros mastodontes dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a encore un peu, d'à se poser des questions là-dessus aussi, des restes du vieux Ibiza, du rapport à la musique électronique, peut-être avec un patrimoine, tu vois, un peu plus old school?
De moins en moins. De moins en moins. Nous, on est arrivé à Ibiza il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je fais des cotes-parts dans l'avion. Je te dis des trucs complètement au hasard, mais ça va être assez représentatif. Mmh. On pouvait dire qu'il y avait 20 ou 30% de hippies dans l'avion qui sont vraiment de cette époque-là. Il y a un grand marché hippie à Ibiza. Il y en a deux immenses marchés hippies. Et donc, tu as tous les hippies, enfin, on les appelle les hippies, mais c'est ce type de personnes qui sont dans la veine que tu viens de décrire, qui y travaillent, qui y vendent de l'artisanat, qui se retrouvent dans des soirées.
Des babas cool.
Ouais, des babas cool, des gens, mais des gens d'aujourd'hui, hein, mais qui sont dans cette mouvance-là. Et ça se voit, c'est l'Inde, tu vois, c'est. non, mais c'est ça, hein, c'est les Doors et compagnie, quoi. Cheveux longs, ils sont tous beaux. D'ailleurs, les hippies d'Ibiza, ils sont tellement chics, tellement beaux, c'est un truc de fou. Tu te demandes si c'est pas eux les influenceurs de Dubaï, au final. c'est le hippie, mais il est parfait, c'est Jésus, mais gaulé. Il y a ça, on en a plein. Et ben, de moins en moins. Et les loyers augmentent énormément à Ibiza. Il y a eu toute une série de sociétés qui se sont mis à faire des maisons de luxe. Et ça part très bien, ça se loue super bien. Donc maintenant, des gens qui louaient des maisons pour nos saisonniers ou pour ce type de population qui n'ont pas des énormes moyens, et ben ils ont filé leur baraque à des gens qui les pimpent, qui font des piscines de dingue et qui louent ça à des jet-setters 50 fois le prix. C'est très dur pour les locaux de résister à ça. Parce que les locaux se plaignent beaucoup de l'industrialisation de la musique à Ibiza. Il y a toute une partie qui s'en plaint, toute une partie qui en profite. Mais ce qui est sûr, c'est que tu t'en plains jusqu'à ce qu'on te fasse une belle offre. Et c'est vraiment dur de résister. Donc l'économie là-bas, elle est vachement liée au luxe. Il y a beaucoup de gens jet-set qui peuvent se permettre d'aller là-bas et qui ont fait monter les prix de tout. Et qui poussent petit à petit à aller ailleurs, c'est ce côté hippie. Il y a encore cette vibe, mais elle est un petit peu récupérée aussi. C'est-à-dire que tu vas voir dans l'avion un couple magnifique avec des beaux chapeaux de cow-boy, mais tu sais, avec du cachet, avec des trucs en lin blanc. Et en fait, ils vont dans une maison de malade, ils sont blindés, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ouais. Et c'est pas du tout des vrais hippies.
Ouais.
Mais ils ont la vibe Ibiza. Mmh. Et ils vont décorer leur maison comme une maison de hippie, mais avec que des trucs de designer à je sais pas combien.
Ouais, en fait, c'est la récupération, c'est comme les Coachella, Burning Man, tous ces trucs-là où, en fait, ça part d'une intention de faire un truc un peu, néo-bab.
Ouais, complètement.
Dans le partage, machin, et au final.
Les riches n'ont pas l'impression d'être trop riches ou disant, mais ouais, quoi.
Et en fait, les mecs, ils arrivent et ils louent une tente à 10 000 balles, quoi.
Mais c'était très bab dans les années 60, oui, 60, oui. 70. Déjà, il n'y avait pas d'avion. Les mecs, ils allaient en bateau. On me raconte des histoires. Les anciens de là-bas, ils étaient tous à poil dans le bateau. C'était la fête dans le bateau. C'était les teufs sur la plage non-stop. Aujourd'hui, c'est interdit, les fêtes sur la plage.
Ah ouais.
Il y en a trop de techno, trop de. Donc, tant mieux, hein, que ce soit interdit. Attention, je suis. Autant je suis contre les lois liberticides sur les free parties, autant à la plage à Ibiza, trop de teuf.
Il faut protéger le littoral aussi, des trucs comme ça.
Tu sais, c'est que des toutes petites criques.
Ouais.
Il y a pas de très, il y a très peu de grandes plages. Il y en a deux ou trois, mais sinon c'est des toutes petites criques. Tu te retrouves là-dedans, boum, 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 au secours. Donc non, ils ont été obligés de faire cette règle de pas de teuf sur la plage. Moi, je trouve ça très bien, mais.
Mais Christophe, est-ce que tu ne serais pas gentrifié hein?
J'ai mis une chemise.
Tu travailles pour David Guetta, je veux te dire. Mais on connaît mal Ibiza, et j'invite d'ailleurs nos auditeurs, mais non plus je ne suis pas un expert, mais à se renseigner. Je sais par exemple aussi qu'il y a une nature incroyable, je crois.
C'est
Ibiza.
Très beau.
C'est sublime, paraît-il.
C'est sublime, c'est très sauvage. Il y a certains littoraux qui ont été défoncés par les architectes des années 80 pour faire des resorts moyens de gamme. Donc il y a deux littoraux qui se sont fait saccager, mais sinon c'est très peu dans l'île. Quoi. Je ne sais pas si c'est même pas 5% des littoraux, le reste est resté très sauvage. Ils ont relativement vite légiféré sur l'interdiction de construire en zone rurale. Donc ouais, c'est très sauvage, très beau, j'ai beaucoup de chance de travailler là-bas, j'adore aller là-bas. Et j'arrive même en pleine saison, quand c'est noir de monde, à trouver des coins pour me ressourcer. C'est une île magnifique, c'est splendide.
Et sur la musique ? On arrive à garder aussi, justement avec François, il me disait qu'apparemment, je crois, à l'Amnesia, il y a encore des soirées house, par exemple.
Ouais.
On arrive à garder un peu des trucs, tu vois, comme ça, historiques.
Alors il y a tout. En techno, vraiment, alors moi qui suis fan de techno, il y a des clubs super underground encore. Il y a même un club qui s'appelle l'Underground. Mais il y a des petits endroits. Je connais même des gens très riches qui ont fait une discothèque chez eux, qui invitent des gens que par 50. Il y a quand même une sacrée vibe musique électronique. En dehors des gros mastodontes pour lesquels moi je travaille, il y a tout un choix. Quand je reçois des potes, ils viennent une semaine ou deux, ils se font des plannings de. Alors là, je vais voir lui, là, je vais voir lui, là, je compare ça à un salon de l'électro pendant 4-5 mois. T'as à dispo une île avec un choix incroyable de soirées électro, de tous les styles, et à toi de te faire ton programme. Et alors les gens de l'île, c'est on aime ou on n'aime pas la techno, donc moi j'adore. Et après, il y a aussi, d'un point de vue éthique, on aime ou on n'aime pas de faire du Nil calme un lieu où il y a des teufs un petit peu partout. C'est sûr que ça se remarque qu'il y a des teufs un peu partout. Après, ça reste quand même une île calme et belle. Hein. Même, c'est très localisé, les zones où il y a tous les bars et les zones où il y a tous les Anglais et tous les fêtards qu'on voit dans les documentaires. Quand, tu sais, les 66 minutes inside ou les trucs
complètement, ouais.
Plus ou moins racoleurs, ils vont vraiment mettre l'œil sur quelque chose qui est finalement une petite partie de l'île.
Techno, drogue et alcool, ouais. Deux points. Les folles soirées de Ibiza.
Ouais, c'est ça. Ils vont filmer chez nous. Ouais, nous, on est dégoûtés.
Et du coup, il y a donc Ibiza, ok, le truc s'est installé, c'est là depuis longtemps. Et est-ce qu'il y a des velléités d'expansion
avec une offre, tu veux dire, avec, ouais. Ouais.
Ah bah nous, on bosse à l'international, on bosse pas du tout qu'à Ibiza. On a une grosse saison à Ibiza, puisqu'on doit tout produire pour les ouvertures au mois de mai-juin. Mmh. Mais sinon, Inoff, c'est une boîte très hétéroclite qui bosse avec plein d'autres clients. Ibiza, c'est aussi un gros apporteur d'affaires, puisqu'on a beaucoup de monde qui passe sur l'île et qui voit le travail qu'on fait.
Et qui demande à
voilà, faire. Romain et Yann ne sont pas avares de me mettre en relation avec les gens qui demandent qui a fait la déco. Mmh. On est plutôt en bon terme. On a des
et du coup, c'est quoi si toi, tu vois le marché un peu et comment il évolue, c'est quoi l'endroit qui est en train de prendre de la hype ou...
C'est difficile à dire. Pour l'instant, ouais. Moi, j'ai tendance à penser qu'en Asie, ils aiment bien ce qu'on fait et ils aiment bien notre savoir-faire. Et ils nous font les yeux doux. voilà. Okay. Après, est-ce qu'on arrive à produire ? J'attache beaucoup d'importance à produire. Mmh. Je ne voudrais pas devenir une agence. J'aime produire. J'aime
tu veux
avoir
dire toi-même mettre la main
à
la pâte.
J'aime avoir un atelier. Ouais. J'aime que l'IA ne puisse pas me remplacer, par exemple. Mmh. D'un point de vue purement de sécurité de l'emploi, je sais qu'en possédant un atelier et en ayant des menuisiers, je vais toujours tirer mon épingle du jeu. Mmh. Aujourd'hui, je fais du divertissement. Je suis un peu dans un paradoxe éthique versus réalité, à savoir que ce qu'on fait, c'est pas hyper écolo. Mmh. Faire des teufs pour des gens qui se déplacent en avion, c'est pas dingue. J'ai beaucoup de discussions avec les patrons de Tomorrowland, avec tous les grands patrons. On essaye de faire des trucs, on essaye de voir comment on s'organise. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui draine 500 000 personnes, enfin, je dis 500 000, je caricature, hein, ouais. Y a rien qui draine 500 000 personnes, mais Burning Man, c'est pas écolo, Tomorrowland, ouais. C'est pas écolo, et ça me dérange. En même temps, je fais des trucs magnifiques, j'adore mon métier, je suis hyper passionné de mon métier, j'adore faire des belles scénographies.
Allez, quelques grosses actus, quelques gros projets sur lesquels tu bosses en ce moment pour nous faire rêver un peu.
Je peux pas trop parler d'Ibiza parce que la saison est à venir et moi je suis garant de la confidentialité, c'est-à-dire que je suis au courant de ce que tous vont faire.
Et bon, ailleurs qu'à Ibiza,
eux, ils se tirent la bourre entre eux. Et du coup, ils veulent, tu vois.
Oui, il faut pas qu'ils sachent à l'avance.
Exactement.
Je comprends.
Alors, parfois, je peux ailleurs. Orienter. S'il y en a deux qui font exactement la même chose, ça nous est déjà arrivé. On est là, bon, les gars, vous avez eu la même idée. Alors, on va reprendre un des deux, puis on va lui dire, essaye de trouver autre chose, parce qu'on va pas mettre deux soirs de suite. Je te dis un truc au hasard, mais on va pas mettre deux lions sur scène deux soirs de suite, tu vois.
Ouais, d'accord. Ça peut arriver à ce niveau-là, quoi.
Ouais. Bah, tu sais, la convergence des idées, c'est fou. Parfois, tu crois que lui a pompé sur lui, mais en fait, c'est juste. C'est comme c'est les prénoms.
Il y a les tendances aussi. Ouais. Et tout.
C'est comme tout le monde qui prend le même prénom au même moment et qui croit que c'est original. Et que c'est pareil, c'est des tendances. On sait pas. Nous, c'est pareil dans le décor. Quand on en fait vraiment beaucoup des décors, ouais. On en fait plein. Si tu vois déjà 3 discothèques, ça fait déjà 7 fois 3. Mmh. Dans une des discothèques, il y a une deuxième salle, donc ça fait 7 fois 4. Ouais. Déjà, rien que ça, c'est énormément de décors à produire. Donc il y a des chances qu'il y en ait qui se ressemblent. Et s'il y a bien un truc qu'un DJ connu va pas vouloir, c'est que son décor ressemble à l'autre DJ connu.
Ouais. des projets alors hors Ibiza là, qui t'occupent beaucoup, des trucs ambitieux.
Alors là, j'aimerais. J'ai adoré faire Universe, j'ai adoré l'architecture d'intérieur, j'ai adoré avoir une grosse équipe qui mène un projet pendant 2 ans à long terme avec un gros enjeu de sécurité, enfin tout ce qu'il y a en archi que je faisais pas du tout dans ma partie décor. Bien qu'on doive respecter tout un tas de normes. Donc là, je suis sur un filon d'un lieu à Paris qui va ouvrir. Donc il y a une discothèque qui va ouvrir à Paris en 2028. On a gagné l'architecture d'intérieur du truc. Donc ça, c'est génial. Bien. Je peux pas dire ce que c'est, mais c'est super. C'est un lieu de 1500 places. Il y a des personnes qui voudraient faire une reconstitution de Universe aussi au Moyen-Orient.
Après le Louvre,
j'attendais Dubaï, les Émirats.
On y vient.
Okay.
Donc peut-être s'ils arrêtent de bombarder, on pourrait éventuellement. Surtout que moi, comme j'ai beaucoup travaillé pour des Saoudiens et des Qataris et des Émiratis aussi d'ailleurs, quand j'étais au Liban. J'ai gardé des facilités culturelles avec eux. Ouais. Donc je suis assez bien, je m'entends bien avec les gros négociateurs du Moyen-Orient. Ça passe bien avec moi.
Tu sors quelques mots en arabe et c'est bon, et t'aimes
bien. Ouais, c'est ça, je sors quelques mots en arabe. Et puis tu sais, vraiment ce nom de famille, là, Samé Vardin de Croix, ça marche. Avec eux, c'est fou. C'est con, hein, mais. Donc il y a des trucs comme ça. Ça, c'est le genre de projet que j'affectionne. Il y a aussi un lieu qui va voir le jour là bientôt à Saint-Ouen peut-être. Et c'est un appel d'offres aussi sur lequel je me positionne. Grand lieu culturel, type salle de théâtre, salle de spectacle, salle de concert. En ce moment, je bosse aussi sur de l'agencement d'intérieur d'un théâtre à Paris. Voilà, c'est tous des trucs sur lesquels on est en train de travailler.
Trop cool.
Hyper intéressant. Il n'y a pas de trucs à Aubervilliers ? Moi, je veux des trucs cool à Aubervilliers. Là. Je connais en plus un peu le quartier, il faut pousser.
Aubervilliers. On parlait de gentrification.
Oui.
C'est une gentrification lente. Alors, on peut, comme on est beaucoup décrié pour gentrifier des endroits, là, au moins, on ne gentrifie pas trop à Aubervilliers.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est une façon élégante de le dire, ouais. Je suis plutôt d'accord, d'ailleurs, hein, Salman.
On laisse le truc dans son jus.
Ouais. Non, ça bouge. Ça bouge.
Non, quand même.
Ça bouge.
Il y a un bar à vin qui s'est installé près de la mairie il n'y a pas longtemps.
En biodynamie ou pas ?
Non.
Un bar à vin au Aubervilliers.
Franchement, il y avait déjà une cave, tu vois, pour te dire, quand même.
Incroyable.
Comme quoi. Une nouvelle boulangerie depuis quelques temps.
On n'a pas trop abordé, en fait, et là, ça fait déjà 6 heures que cette émission dure. Malheureusement, on n'a pas abordé justement la loi Free Party, la loi.
Ah, actuelle ?
Ouais.
Peut-être qu'on peut terminer là-dessus, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Molitor 2001, c'est la dernière. Tu as dit que derrière qu'il y a eu une loi, je précise. C'était, en fait, je crois que c'est un amendement, l'amendement Mariani, Thierry Mariani, qui en gros.
L'agent russe.
Ouais, qui obligeait, en gros, à déclarer au préalable. Une fête, donc c'était il y a plus de suspense sur ce que dit la loi, c'est interdit, tu vois.
Alors la loi qui est en train d'essayer d'être
promulguée, et là la nouvelle
ouais. Elle reprend les termes de la loi précédente qui disait au-delà de 500 personnes toute soirée non déclarée officiellement et non organisée, alors je suis pas expert mais bon, en gros c'est ça, non organisée avec une licence de spectacle et une déclaration donne lieu à une amende de 1 500 € pour les organisateurs. Et point.
Ça, c'était du coup, les gens s'en foutaient, parce que tu dis 1 500 €, rien qu'avec le bar.
C'est gérable.
C'est gérable, ça permet de faire des soirées de moins de 500, mais ça, c'est y compris sur des terrains privés. Hein. On ne parle pas de dégradation du bien d'autrui ou quoi, c'est vraiment une règle de base. On trouvait déjà ça dur, mais bon. Là, cette loi, elle est passée de 500 personnes à 300, et les 1 500 € d'amende sont passés à 30 000.
Donc là, c'est un projet de loi en ce moment, c'est ça ? C'est pas encore voté,
ça a été adopté. Voilà, ça a été adopté par l'Assemblée nationale, ça doit suivre son cours, on va voir où ça mène, si ça passe le Sénat, on verra. Mais en tout cas, à l'Assemblée nationale, ça a été adopté en ces termes, 30 000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement pour tous les organisateurs. Sont considérés comme organisateurs toutes les personnes ayant participé à la bonne tenue de la fête, hors prévention des risques. C'est-à-dire que les associations de prévention des risques, qui au départ étaient incluses dans la loi, ont réussi à quand même se faire sortir de la loi, parce qu'on va quand même pas...
Ouais. pas pour aider les gens, quoi.
Mais ça a failli pas arriver. C'est-à-dire qu'au départ, même eux...
Ils étaient concernés. Enfin,
c'est tout répressif, quoi.
Et maintenant, le participant aussi aura une amende, je sais plus combien, je crois que c'est 300 euros par participant. Et il me semble que en cas de récidive pour le participant... Enfin, c'est exponentiel.
Donc, tout le monde mange, en fait. C'est
tout,
ça le.
Tout le monde mange.
Surtout 30 000 euros, là, ça commence à se faire mal.
Bah,
quoi.
30 000 euros, voilà, tu le fais plus. Donc, 30 000 euros et 6 mois d'emprisonnement. Ouais. C'est surtout ça qui me choque. Mais encore 30 000 euros, c'est énorme. Mais les 6 mois d'emprisonnement, ça me choque.
Alors que, encore une fois, j'arrive pas à comprendre. Il faudrait vraiment que je dise ce truc. J'arrive pas à comprendre où se situe le problème. Si. le danger.
Moi, je me rappelle, j'ai vu des extraits de Mariani, justement, à l'époque, en 2001, là, où il dit, il met en avant, alors il fait dans le, tu vois, dans le grandiloquent, comme ça, il dit, c'est pour protéger nos enfants, en gros, les problèmes de drogue, machin, etc.
Foutez-leur la paix.
Pour protéger aussi les propriétaires des lieux, parce qu'en fait, après, ils se retrouvent avec des trucs complètement ruinés, un investissement après des décennies.
Oui, mais ça, tu disais que, voilà, en gros, dans les free parties, en fait, le propriétaire, il était prévenu. Enfin, c'est
très facile de débunker ces arguments-là. Personne organise une free sur un terrain cultivé. Personne en free ne nettoie pas son terrain en partant, mais c'est vraiment un milieu hyper... c'est des gens qui sont dans la solidarité, c'est plutôt en général des gauchistes qui sont dans la coopération. Alors, je veux pas généraliser, évidemment, quand je dis gauchiste, c'est politisé, c'est pas le cas, c'est apolitique comme mouvement, mais globalement, c'est plutôt des franges bienveillantes, sympas, que des gens qui cherchent à nuire. Donc, le côté les agriculteurs qui pleurent leur terrain, moi, j'ai jamais vu. Honnêtement, un agriculteur qui pleure son terrain après une free party, c'est extrêmement rare et ça doit être des cas...
Les politiques essaient de les faire passer pour des nuées de criquets, en fait, qui ravagent tout, alors que...
Et la drogue ? Pour revenir au deuxième argument, la drogue, c'est vrai, il y a de la drogue en free party, mais il y a de la drogue dans tous les festivals et tous les concerts de la même manière.
On parle Will of Green et compagnie.
C'est pareil. Ouais. C'est pareil.
D'ailleurs, c'est Will of Green.
Il suffit d'aller en club aussi pour voir de la drogue.
En club, particulièrement en club, on est vraiment sur le même niveau de drogue qu'en free party, sans aucun doute. C'est vraiment, il n'y a aucun doute. Les mecs en sont à mettre des petites... Moi, je fabrique des clubs. Je sais qu'on crée des infrastructures pour accueillir en cachette des drogués. C'est ça l'idée, de faire avec, de le subir plus ou moins. Dans nos clubs à Ibiza, on a une politique zéro drogue, zéro prostitution. C'est hyper fort comme politique. Ouais. C'est très, très, très engagé et assumé. Mais pour autant, la drogue, elle est vraiment clairement aussi présente en club qu'en free party. Donc cet argument ne tient pas non plus. L'argument financier tient et l'argument de sécurité. À savoir que quand tu reçois 5000 personnes, tu dois répondre à un cahier des charges normatif hyper important quand tu déclares. Tandis que si tu ne déclares pas, potentiellement, tu as mis les gens en danger. Ouais. C'est le seul argument qui tiendra et financier.
Et je précise parce que on s'attaque aux free parties alors que les clubs ils ont aussi des problèmes de drogue. Ce qu'il faut dire c'est qu'on s'attaque aussi beaucoup aux clubs, que c'est hyper difficile aujourd'hui de tenir des clubs sur les questions de drogue, etc., mais pas seulement sur les questions de nuisance sonore, etc., et que globalement les pouvoirs publics sont pas tendres non plus avec les clubs.
Ah ouais, ça j'en ai pas conscience.
Ouais, je crois que c'est parfois difficile. Les lieux de fête, de toute façon, c'est difficile. T'as tout de suite des trucs de voisinage, de machin, etc., des pressions.
Par contre, j'ai tout à fait conscience des nuisances et de en tant que faiseur de club, je vois très bien, nos normes sont hyper élevées. On en a beaucoup parlé au moment de Cran Montana, des normes des bars par rapport aux normes des clubs. C'est clair que dans un de nos clubs à Ibiza, ça n'arriverait pas.
Ah mais d'ailleurs, pas qu'à Ibiza, impossible. Les clubs par rapport aux bars sont fliqués de ouf, ils doivent être drastiques sur les conditions, etc.
Alors que le bar peut se transformer en club et tout le monde s'en fout.
Exactement, et d'ailleurs, ils se plaignent en disant, mais il y a un truc aussi de dédain, enfin de pas respect de cette culture, tu vois, de non-respect de cette culture, de dire vous nous mettez des bâtons dans les roues, limite ça arrange tout le monde qu'on n'existe plus. Il y a parfois ce discours qu'on entend de la part des gens des clubs, tu vois.
Ouais, je savais pas ça.
Bon, je sais pas, enfin je sais pas non plus, il faudrait voir avec les syndicats, etc. Mais je
suis déjà pour les clubs.
Ouais, mais en vrai, je crois que c'est
sujet, on pourra avoir
moi le hérétique qui dit ça. Je vais me retrouver sur TikTok.
Bon, c'était passionnant, Christophe.
Ouais, merci.
Très, très bien.
C'était trop bien.
Très, très chouette.
En plus, c'est un univers qu'on connaissait assez peu, qu'on n'avait jamais abordé dans le podcast en 117 épisodes, 116. Donc, je suis content d'avoir fait ça.
Très flatté, alors, du coup. Mais d'autant plus flatté. Merci.
Tu sais, on a une tradition. Terminer cette émission avec des recommandations musicales. Donc, chacun, un morceau. C'est soit un de nos classiques, soit un truc qu'on a découvert récemment. Quelque chose que tu veux faire découvrir à nos auditeurs, à nos spectateurs. On peut commencer, si tu veux qu'on classe un peu le temps, avec Daz. Un morceau, on s'écoute une minute trente. T'as déjà une idée ou...
Mais une minute trente. J'allais dire Olé de John Coltrane, mais ça dure 18 minutes le truc.
Ah non, on s'écoute un extrait. C'est un de tes grands classiques.
J'adore. Pour moi, c'est de la tribe.
Ok.
C'est un truc, il y a une marmite de son. C'est un groove comme ça, et il y a un solo de violon, un solo de piano, un solo de saxo, un solo de trompette, un solo... Et comme ça pendant 18 minutes, et le mec il a le même groove.
Vas-y,
pendant...
tu donnes envie.
On dirait de l'afrobeat, le truc c'est du jazz, c'est du pur jazz. Mais pour moi, la techno c'est exactement ça. On balance un kick, on trouve un bon groove, et derrière on balance les nappes acides, les mélodies, et c'est cette espèce de chaudron comme ça qui
le
tourne.
Le ragout.
Et tant que le groove retombe bien sur ses pattes, ça marche. Et ça marche même 18 minutes. Olé, c'est ça pour moi.
Et tu sais quoi, on s'écoute la première minute, et puis au pire j'avance un tout petit peu pour qu'on voit à quoi ça ressemble après. C'est parti.
Jusqu'au solo de piano.
un peu à qui il y a dedans.
Ouais, c'est marrant les ponts avec justement.
Tu te mets en entier, au moins jusqu'au solo de piano. Ouais, mais à chaque fois que j'arrive au solo de piano, déjà tu t'es tapé 10 minutes avant. les frissons des ténèbres.
Ah, c'est stylé les ponts entre ça et. Parce qu'on a écouté de la musique qui avait aucun. A priori, aucun rapport esthétique. Ah. Et en fait, on voit complètement le.
En vrai, j'écouterai les 18 minutes.
Ouais,
à la maison, tu vois, je les mettrai dans le salon et tout.
Ah ouais, sur ton ampli à lampe,
Maquine. J'ai pas d'ampli à lampe, mais oui. Naz, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux écouter ?
Yes, un morceau qui, justement, est dans la thématique, non pas esthétique, mais géographique.
Ok.
Un morceau de J. Cole qui s'appelle Trey the Truth in Ibiza.
Ok.
Voilà, donc J. Cole et Trey the Truth, rappeur de Houston, je crois, je sais plus trop. Bon, bref, et puis J. Cole, un des meilleurs lyricistes de sa génération.
On s'écoute J. Cole alors.
Merci. Allez, c'est parti. Yeah. Nigga that got spoiled off these fucking PJs. I'm not, it's not like I'm too good to fly commercial, that shit just, it's a hassle at this point, you know what I mean? Yeah. At 100 degrees, I freeze the temp. Got my grip and I never proceed to slip. Feel the weight like I just had my Caesar clip. Got a family to feed, I squeeze the clip. Walk in front of the judge and plead the fifth. I'm a legend, but it ain't no need for myth. Better get you a visa, he's a trip. I had Trey the Truth and a visa lit. Niggas ain't about to outwork me. Go to sleep late, I'm still waking up early. Look at my belly, I'm hungry. Y'all niggas desperate and thirsty. You can't even tell us the difference. Hungry is when you're relentless. Even when one of your idols are dead in your face and he tell you you can't, and you know that he meant it. But when you call, you attempt it. Come, let me show you a template. I had to grow out the concrete. I had to stroll through the trenches. I had to stroll through the trenches. At 100 degrees, I freeze the temp. Got my grip and I never proceed to slip. Feel the weight like I just had my Caesar clip. Got a family to feed, I squeeze the clip. Walk in front of the judge and plead the fifth. I'm a legend, but it ain't no need for myth. Better get you a visa, he's a trip. I had Trey the Truth and a visa lit. Triplet flow, ça marche. Hein.
Ouais, et puis la prod, elle tue. Hein.
Ouais. Eh oui, J. Cole, voilà. Très, très, très chouette morceau. Je vois pas le rapport avec Ibiza, mais.
J'ai cherché dans les paroles.
Il dit juste que ouais, Trey the Truth est à Ibiza. Et puis après, Trey the Truth arrive sur le troisième couplet. Mais je sais pas, ils doivent avoir un délire avec Ibiza. J'ai pas compris la joke, mais voilà. Et alors, toi, Salman ?
Eh bien, écoute, je vais. Double recommandation dans le sens où il y a un morceau, mais en lien avec un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix, sur les Red Hot. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Qui s'appelle The Rise of the Red Hot Chili Peppers. J'ai du mal. Our Brother Hillel. En gros, ça revient sur les débuts plutôt des Red Hot Chili Peppers. Notamment, ils étaient accompagnés d'un guitariste, Hillel Slovak, qui est décédé d'ailleurs, malheureusement, la drogue. On en revient. Et donc ça raconte l'histoire, il est là sur les premiers albums, et à quel point en fait il a été important dans le destin de ce groupe qui va devenir évidemment un culte, une grosse machine mondiale. Après il y a eu, c'est bien avant Californication où c'est devenu vraiment un groupe pop mainstream ultra énorme, et il raconte l'influence, comment en fait lui il a été même quasiment le catalyseur du groupe, et presque il a l'origine de la formation du groupe, franchement le docu, il est bien parce que on aurait pu tomber dans le, tu sais, justement, ça s'appelle The Rise of the Red Hot Chili Peppers, tu vois, genre, hagiographique, regardez ce groupe incroyable qui est devenu énorme et tout. Et ça reste à dimension assez humaine. Et franchement, voilà, si vous aimez les Red Hot, ça vaut le coup de regarder le documentaire. Et donc, ça m'a replongé, évidemment, dans les Red Hot Chili Peppers. Il y a plein de moments dans le docu où on voit des morceaux et tout de l'époque. Et notamment sur le dernier album, si je dis pas de bêtises, qu'ils font avec Hillel avant son décès, qui s'appelle The Uplift Mofo Party Plan. On est en 1987, et il y a un morceau, c'est un peu, je sais pas si c'est le tube de l'album, en tout cas il est bien efficace, ça s'appelle Funky Crime. On va s'écouter ça.
Allez. What you do? I don't know. Who me too? Sonne un peu comme du Prince, marrant.
Ah ouais, un plus rock quand même.
Non, plus rock sur les refrains,
c'est plus dur.
Entre Prince et Beastie Boys.
Ouais. Vois, sur les refrains, c'est Beastie Boys. Et...
C'est un truc funk rock, à la fois inspiré aussi par le rap, par le hip-hop. Enfin, ouais, tout ce mélange. Mais ce qui est la patte Red Hot, avant justement Californication, qui est un super album aussi, mais je suis un peu moins après Californication. Mais Blood Sugar Sex Magik, c'est absolument incroyable comme album. Mais ça, tout le monde s'accorde à le dire. C'est... Vous êtes un peu dans les Red Hot.
Moi, j'adore les Red Hot.
Moi, j'aime que le morceau qui a été repris ensuite par tout le monde du rap au niveau de la ligne de basse, là, le truc ultra connu. Là,
ah ouais, je vois pas.
Je sais plus comment il s'appelle le morceau, là, où il parle de la ville de Los Angeles qui lui explique.
Under the Bridge.
Oui, voilà.
Qui est
très classique. Mais la ligne de basse, frérot, pouf, repris partout dans le hip-hop, évidemment.
Bon. C'est la fin, les gars.
C'est la fin. C'est
C'était
la fin de l'émission.
Hyper bien, je le dis à nouveau, merci à nouveau Christophe Samé. On peut retrouver ton travail. On tape in-off par exemple, on peut trouver les
trucs. Tu tapes in-off, tu vas trouver in-off, déco, in-off, event.
Mais in-off, vous étiez au courant quand même qu'en anglais, quand on le prononce, c'est assez.
Trop, ouais, il y en a marre.
In-off,
ouais. Enough is enough.
Ouais, bah oui, ouais, c'est ça.
Michel Petit. In-off.
C'est comme ça que j'ai entendu au début, moi. Mais, ouais.
Le patron du Printemps de Bourges qui en avait marre qu'on organise une teuf illégale en marge de son festival. Et il nous a proposé de rentrer dans la programmation du festival. Et pour ça, il fallait une boîte avec une licence de spectacle et nous c'était beatnik, on n'avait pas de boîte et du coup on a monté cette boîte et elle s'appelle In Off parce que c'était le in du off du Printemps de Bourges, on a fait rentrer le off dans le in du Printemps de Bourges et on a fait un parc expo et du coup c'était notre premier truc et c'est le mec du Printemps de Bourges, Daniel Colling, qui a trouvé ce nom In Off, et ça vient de là.
Ok, ouais, donc c'est lié aussi au... Ça suffit maintenant.
Quelle histoire,
On arrête, quelle heure est-ce.
il faut quitter les lieux maintenant. Partez, s'il vous plaît. C'est comme en boîte, tu sais, on ouvre les stores et tout. Bon, allez, les gars, dégagez.
Allez, avant que ça qu'on lance les lacs du Connemara.
Exactement.
Il faut qu'on se quitte.
Merci à plein de gens. Merci à Fabrice, déjà, avec qui tu travailles, grâce à qui on a fait cette émission, qui nous a suggéré de faire cette émission, et c'était une excellente idée. Je suis bien content d'avoir fait ça.
Merci, Fabrice.
Merci à François pour le montage. Merci à la team Bouclette.
Évidemment.
Iris, Sam, Flam.
Ouais. Exactement. Merci à qui d'autre? J'ai failli oublier.
Mais oui. Thomas.
Dankeschön.
Christophe.
Merci, Thomas.
il est bon. Il est bon. Et, non, mais d'autant plus que tu nous disais. il boit comme ça avec.
Je suis client chez Thomas. C'est vrai. Blague à part.
Oui, tu achètes tout le temps chez Thomas des trucs.
J'achète beaucoup chez Thomas des trucs, ouais.
Ouais, bon. Voilà, Daz. Les professionnels savent
en
où
pro
aller.
Et en perso aussi.
Eh oui, parce que ça couvre tout. C'est super. Oh, c'est super.
De la free party à Thomas.
Bravo, Thomas.
Le grand capital. Bravo.
Incroyable. Défoncé.
Et puis surtout, merci à vous, chers auditeurs,
merci,
chers spectateurs.
Public. On se retrouve dans 15 jours, du coup.
Exactement.
Avec un sujet incroyable encore.
Et alors, tu sais quoi, pour une fois, à chaque fois, on dit on sait pas trop et tout. Non, souvent, on sait un peu. Non, mais là, vraiment, on sait pas du tout.
Ah non, on sait pas du tout.
On a plus, rien de prévu.
Ah, shit. Ok, mais ça va être super.
Mais on va trouver. Ouais. Ça va être trop bien. Évidemment. Regardez, on a reçu Christophe.
C'était super.
C'était une super idée. Ben, on en trouvera une autre.
Évidemment.
Attends, 15 jours.
Ciao.